avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Que tu t'appelles Gilto, Pascal ou Jeff, sois à l'écoute de On en jase le midi. Vous êtes avec Jeff Fortin, Pascal CV pour votre dernière émission de la semaine On en jase de midi à 14h. On va partir ça sur les chapeaux de roue avec le journaliste Nicolas Lachance qui est au bout du fil à l'heure actuelle à la commission Gala. Mais avant, Pascal, un peu de circulation.
Oui, ça semble pas beau du tout ce qui s'est passé sur Capitale Ouest. Il y aurait une collision vis-à-vis Lormière, là, une moto qui aurait foncé dans une voiture. La circulation est arrêtée. On vient d'avoir l'information au 88-971-1021. Si vous en avez, c'est toujours un bonheur de vous lire pour vous informer. Sinon, je peux quand même dire que Félix Leclerc-Ouest, là, à la hauteur du boulevard Saint-Jacques, la voie de gauche est bloquée vu l'accident justement.
418-971-1021 sera le numéro également pour réagir parce que c'est titré en gros sur le Journal de Québec. Karl Malenfant étourdi et déstabilisé par la preuve accablante déposée à la commission Galant. Et on a le meilleur journaliste sur le dossier de la commission Galant en ondes, Nicolas Lachance, Journal de Québec. Nicolas, comment ça va?
Ça va bien, salut à vous deux.
Salut.
Nicolas, on a compris que l'adresse personnelle de Karl Malenfant servait pas juste pour parler à Loulou et Mado quand on était à petite maison de campagne à Sainte-Adèle.
Non, je dirais que le grand coup, les feux d'artifice sont arrivés ce matin, qui vient d'être déposé en preuve devant la commission, a totalement ébranlé M. Malenfant. Il est encore en train d'essayer de se défendre présentement, mais ça sent pas bon pour lui. On comprend qu'en 2016, dans le fond, il y a eu un appel d'offres public. Les soumissions devaient être déposées au 4 avril 2016. Et ensuite, bon, ben, à la SAQ, on avait formé des comités secrets qui étaient inclus dans un bunker étanche et chaque comité devait analyser une partie des soumissions. Et donc, c'est hyper secret, ça peut pas sortir. Et Karl Malenfant, lui, là-dedans, il est à l'extérieur parce que c'est le gestionnaire de projet qui devra ensuite signer l'entente. Mais lui, il doit pas avoir accès à tout ça, jamais. Mais là, on comprend que 4 jours plus tard, après la conclusion des mises en candidature, il s'est envoyé à son propre courriel personnel le résultat ou la réponse de Deloitte qui n'a pas remporté l'appel d'offres, je vous confirme. Hein, on parle tout le temps de l'alliance SAP-LGS, donc IBM. Et là, ben pris devant le fait, il l'a dit lui-même, je suis étourdi, on était obligé d'aller en pause parce que clairement, il était complètement déstabilisé par la preuve. Et au retour de la pause, une seconde preuve a été présentée, donc des textos encore une fois avec ses fameuses amies, là, Loulou et Mado, qui sont mis de l'avant, où justement il déclare que oh boy, c'est gros en crise, c'est j'ai de compléter les 2000 quelques pages de lecture pendant tout le week-end. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, je sais pas où ça va mener, M. Malenfant, mais ce geste-là n'est pas supposé arriver. Alors, je sais pas si j'ai bien mis en contexte, c'est un peu technique, mais bref.
C'est fascinant de voir ce qui se passe avec la commission Gala en ce moment, en 2025, même si ça remonte à il y a quelques années, parce que là, on expose aujourd'hui tout ça, de voir qu'une personne, qu'on suppose encore, on parle au conditionnel, on est dans une commission actuellement, comme M. Malenfant, qui semble établir un certain stratagème avec des gens qu'il connaît pour faire avancer un dossier gouvernemental. Nicolas Lachance, t'es journaliste depuis longtemps, tu farfouilles ce genre de dossier depuis longtemps. Est-ce que t'es somme toute impressionné qu'on soit encore capable de se rendre à des niveaux comme ça, à des niveaux de commission, à des niveaux de stupéfaction, un peu comme M. Malenfant était stupéfait dans les dernières heures?
En toute franchise, non. Je ne suis pas étonné de ce qu'on apprend devant la commission parce que, bon, c'est un peu la façon dont ça fonctionne. Depuis le début de son témoignage, Malenfant scande haut et fort un peu ce qui est en parallèle et dans l'actualité. Donc, lui, il voulait provoquer les choses, conclure quelque chose, amener la société d'un point A à un autre point. Il voulait que ça avance. Donc, mais la structure gouvernementale est faite. Il y a des étapes à suivre pour conclure ce genre de contrat-là puis les mener à terme. Est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce qu'il a contourné les règles? Ça sera à la commission de dans son rapport de voir jusqu'où ils sont allés pour arriver à leur fin. Maintenant, est-ce que je suis étonné? C'est la première fois qu'on fait le tour de la question informatique avec un seul des projets. C'est des centaines de projets en ce moment au gouvernement du Québec. Combien sont dans le même axe de ou la même façon de faire qu'on voit présentement? On pourra pas le savoir. On va juste faire le tour d'un seul de ces projets qui a dérapé. Puis je le répète souvent, si on a mis l'accent sur ce projet-là, c'est parce que ça a touché les gens concrètement dans leur quotidien. Lorsque la plateforme a été déployée, c'est que les gens ont fait la file à l'extérieur durant l'hiver, c'est que c'était difficile pour eux d'avoir leur permis de conduire, ils se faisaient arrêter alors que leur permis de conduire était supposément renouvelé. Je pense que c'est le premier projet informatique au Québec qui touche concrètement le quotidien des gens, donc on voulait avoir des réponses cette fois-ci.
Nicolas, évidemment, on va suivre ce qui va se passer cet après-midi à la commission Galland, mais chose certaine, et tu me corriges si je me trompe, avec le fait que M. Malenfant s'est envoyé sur son propre courriel personnel la soumission du groupe Deloitte et que par la suite parle avec ses amis Loulou et Mado de SAP, ça laisse présager à l'heure actuelle que M. Malenfant, comme plusieurs le prétendaient, a justement truqué les choses à l'avantage de connaissances qu'il avait.
Bien, c'est une grosse prise contre lui. D'ailleurs, justement, dans l'interrogatoire actuel, on se souvient, là, plus tôt durant la commission, on a su que dans la proposition d'LGS, avant la signature du contrat, il y avait des questions dans le comité qui avait choisi l'alliance LGS-SAP. Il y avait des questionnements qui étaient pourquoi ils ont réduit le nombre d'heures, par exemple, pour accomplir la tâche. Pourquoi le taux horaire est plus élevé que Deloitte, justement. Et Malenfant, il avait récemment fait des déclarations sur LinkedIn en disant « si j'avais su avant, j'aurais pu agir ». Mais là, la preuve démontre qu'il était au courant de tout ça, puis il n'a pas plus agi. Donc, ça vient un peu en contradiction avec toute sa défense et ses affirmations qu'il a fait publiquement. Donc, ça le met un petit peu dans le pétrin là-dessus.
D'où le fait qu'il est devenu étourdi, Nicolas?
Bien, sa voix a changé. On a senti qu'il suait énormément. Le commissaire a réellement déclaré une pause à ce moment-là. Et il lui a rappelé aussi d'aller relire avec son avocat la loi sur les commissions d'enquête publique, un certain alinéa. Et cet alinéa-là, c'est le parjure. Donc, de faire attention et de bien dire la vérité avec ce qui sera présenté devant lui là, au retour de la pause.
C'est fascinant de voir comment est-ce que le corporel, la voix peut changer. Il y a des choses comme ça qui sont analysées. Et souvent, c'est retenu même en preuve scientifique là, dans un procès. On peut faire venir des experts. Dans ce cas-ci, il dit qu'il s'en souvient pas aussi. Il y a une phrase qu'il a prononcée là, que moi, j'ai surlignée dans ton article. Il dit « Honnêtement, je suis moi-même. Là, je me souviens pas de ça. » Il était visiblement déstabilisé, mais est-ce qu'on va faire venir ou est-ce qu'on fait venir ce genre d'experts-là des fois dans une commission?
Ben, les experts seront appelés à la fin. Donc, il reste beaucoup de témoignages. On n'est pas sorti de l'auberge. On est supposé. Donc, le rapport doit être déposé en décembre. Je ne sais pas si le commissaire va demander un nouveau délai. Parce que ce témoignage-ci risque de durer encore quelques jours. Là. On est encore seulement en 2016 dans la ligne du temps. Et on se rappelle que quand Malenfant était vice-président jusqu'en 2024, jusqu'à sa retraite. Donc, il reste beaucoup de temps à passer avec lui encore et il y aura les gens de l'Alliance qui seront appelés à la barre également. Puis à la fin de tout ça, oui, il y a plusieurs experts qui vont venir analyser ce qui s'est dit et durant la commission d'enquête. Donc, je ne sais pas si le rapport pourrait être déposé avant le temps des fêtes, mais on sent déjà là, qu'il y a un enjeu de temps qui commence à se dessiner devant les acteurs de la commission.
Nicolas, on termine là-dessus et on te remercie pour le temps que tu nous accordes. Selon toi, c'est le plus gros moment présentement qu'on a vécu de la commission Galland, même si on a eu des Geneviève Guilbeault et des François Bonnardel et même le premier ministre qui sont passés.
Si on enlève le plan qui savait quoi au gouvernement, on est vraiment au cœur de la thèse des procureurs. Donc, Malenfant et un noyau dur de personnes qu'ils connaissaient, des amis, ont pris un peu le contrôle du projet pour arriver à leur fin. C'est la thèse qui était mise par les procureurs de la commission. et les preuves qui viennent d'être mises en place devant devant le juge Galland cet avant-midi. Oui, en coulisses, on nous dit que là, tout va être teinté à partir de là. On comprend que ça va être difficile pour M. Malenfant de sortir un peu de cette thèse-là.
Nicolas Lachance, journaliste pour le Journal de Québec qui est à la commission Galland depuis le début. Merci infiniment pour ton temps aujourd'hui. Et on va se reparler la semaine prochaine avec ce témoignage de Carl Malenfant qui va se poursuivre.
Parfait, merci, salut.
Excellent, merci beaucoup. C'était Nicolas Lachance, Journal de Québec. Il peut pas vraiment prétexter qu'il s'en souvenait pas s'il a transféré le tout sur son adresse courriel personnelle.
Ben, c'est dur à croire pour le public. Je pense que si on est dans l'esprit d'opinion et non d'analyse neutre, là, c'est très, très dur à croire. Par contre, c'est une stratégie assurément qui a été mise en place avec des avocats. C'est ce que tout le monde fait depuis le début à la commission Galland, avoir une certaine amnésie quand vient le temps de répondre à des questions qui sont chaudes. Là. Puis je pense que lui, il n'est pas dans l'eau.
Je n'ai pas le souvenir de Geneviève Guilbeault.
Je n'ai pas le souvenir, comment elle avait dit, expérientiel. C'était particulier, là. C'était de diverses façons qu'on dit qu'on ne se souvient pas finalement. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau gouvernementale parfois, mais chose certaine, c'est une technique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mm-hmm. On nous dit par les experts, hein, depuis qu'on parle avec eux, on en jase, que pour certains, c'est sûr que c'est vrai qu'ils ne doivent pas se souvenir d'une pacotille, d'un détail X. Mais là, pour M. Malenfant, c'est dur à croire que...
Bien, c'est dur à croire parce qu'il était impliqué directement, là, évidemment, mm-hmm. en étant le chef de garde de cette transformation numérique-là. Et d'ailleurs, le commissaire Galland lui a servi tout qu'un avertissement en disant « Allez relire avec votre avocat l'article sur le parjure. » Donc, de mémoire, Pascal, le commissaire Galland n'était jamais allé aussi loin avec un témoin. Alors, c'est signe qu'on a des preuves vraiment accablantes.
Bien, assurément, on a des dépôts de preuves qui sont déjà accablantes hein, pour mm-hmm. M. Malenfant. Je pense que tout le monde commence justement à le voir et à le commenter. Je me rappelle au début du témoignage de M. Malenfant que je suivais un peu comme un théâtre d'été. C'était particulier.
Clairement.
Je le trouvais, et là, c'est une prétention, c'est une observation. Vas-y. Je le trouvais déjà mal à l'aise et déjà prime. Je sentais que dans ses réponses, il tentait déjà un peu de s'excuser, mm-hmm. de s'expliquer. Pas s'excuser, je m'excuse aux contribuables. Non, non. Comme d'expliquer un peu.
Ah, oh, ben voyons donc, c'est normal que je tisse des liens de proximité.
C'était pas ça, c'était ça.
Tu sais, j'ai travaillé tellement longtemps avec eux et moi, je leur fais la bille, je leur serre pas la main. T'sais, très hautain au départ. Hein.
Et très dans... Ben là, je vais vous expliquer, moi, comment
ça
marche. Ça.
C'est moi le kingpin de la place.
Et il avait cette attitude envers celui qui posait les questions. Mm-hmm. Tellement que le commissaire Galland avait dit à un moment donné, « Là, monsieur, je comprends, mais on n'est pas dans un rapport émotif. Vous répondez de façon factuelle et c'est tout ce que je demande. » Et c'était très tôt dans le témoignage. Je me l'étais noté.
Très, 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 très tôt. D'ailleurs, en continuant la discussion, je vais aller chercher l'extrait justement de ça. On a Vincent qui nous écrit. « Ouais, il était pas mal moins baveux aujourd'hui que les autres jours. »
J'aime
effet,
dire
là.
Que les gens m'ont flanché. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis tu sais, ça me fascine parce que tout ce qui est faciès, là, analyse de ton visage, analyse de ta respiration, analyse de... Des fois, c'est vrai qu'ils font venir des experts en cours qui font un genre de compte-rendu de ça et que ça peut être en
preuve
utilisé.
Enquêteurs de police. Oui. Les enquêteurs de police utilisent ça, justement, tous les signaux non-verbales pour dire « Ouais, je suis en train de frapper sur le bon bouton. » On écoute justement le commissaire Galland lorsqu'il l'a remis à l'ordre Carl Malenfant, c'était lors de son premier après-midi de témoignage, c'est-à-dire mercredi.
J'ai un très grand malaise à voir comment vous voulez positionner et le lien entre Louise, Madeleine et moi. Oui, on se connaît.
Monsieur Malenfant, il pose des questions, vous répondez aux questions, je fais les liens. Okay? C'est le triangle là, qu'on va s'imposer. Là.
C'était assez clair, hein? Parce que là, M. Malenfant tentait justement de contrôler le verbatim. Puis, ah, ben pourquoi vous me posez telle question? Vous devriez pas aller
là. Vois-tu, moi, c'est
ça
pas l'extrait.
Ça n'a pas d'importance. C'était pas celui-là.
Que j'avais en tête. Ça veut dire que c'est arrivé plusieurs fois.
Oui, exactement.
Mais ça s'accumule, ça s'ajoute. Mm-hmm. Parce que, tu sais, on n'a pas tout le temps nécessaire de suivre tout le témoignage, mais... je l'ai fait comme si j'écoutais un film, là, puis je pense que ça, si vous en avez un à suivre, allez essayer celui de Malenfant.
Oui, celui de Carl Malenfant, somme toute, c'est à voir et à suivre. On a commencé l'émission sur les chapeaux de roue, donc juste vous rappeler que vous pouvez nous écouter également via le blvd.fm, aussi via l'application BLVD 102.1, disponible sur App Store et Google Play Store, et on est disponible sur twitch.tv/BLVDFM. Pascal, C'est l'heure des suivis de dossiers. Ça, j'aime ça quand on fait ça.
On en a plusieurs parce ben que, oui. bon, on vous rappelle qu'on avait fait plusieurs dossiers depuis le début de la rentrée ensemble. Puis ce matin, toi, tu te lèves avant moi, assurément, ouais. avec le show du matin. Tu m'envoies un article dans le journal, en fait, concernant tout ce qui est piscine. Hein. On vous
Exactement.
Demandait, par un règlement provincial, de revoir un peu la clôture qui entoure votre piscine. Puis ça crée bien de l'insatisfaction parce que même la modifier, c'était pas permis. Des mm-hmm. fois, la modification coûtait 700, puis tu essayais de faire en sorte que la différence entre un barreau et l'autre était conforme, mais on jouait sur des millimètres, puis on l'appliquait de façon radicale.
Vraiment. Et si tu permets, on va écouter justement le citoyen que tu avais questionné à Saint-Augustin par rapport à ça, où il nous parle des coûts par rapport à la nouvelle norme.
Elle a été construite il y a 26 ans, et puis la norme à l'époque, c'était 4 pouces. Puis 4 pouces, ça donne 10,16 cm. Alors, j'ai dit, ben là, 4 pouces, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, il dit, il faut que ce soit conforme, il faut que ce soit 10,0 cm. Alors, pour 1,2 mm, il faut tout que je corrige ma clôture à grandeur, ça va me coûter 3 000 $. Alors que si je fais les corrections pour 4 pouces, qui était la norme acceptée pendant 26 ans, ben là, ça va me coûter à peu près 700 $ pour corriger tout ça, puis je vais devenir conforme.
Puis là, je me rappelle, moi et toi, on était tombés en bas de notre chaise en disant, OK, attends une minute, là, pour 1,6 cm, on va vraiment faire payer 5 000 $ à ce citoyen-là.
Puis, tu sais, c'est plus que ça. S'il la refaisait au complet, sa clôture, parce que là, le 5 000, c'était pour refaire les barreaux. 700 $, c'était s'il gossait son barreau pour rendre plus épais le 10 barreaux mm-hmm. et donc que ça rapetisse l'espace entre les 10 barreaux. Mais c'était plus de 14 000 pour la refaire au complet. Puis rappelez-vous que ce citoyen-là, c'était un peu lancé dans le gouffre lui-même parce qu'il voulait tellement se conformer qu'il était allé à la ville puis il a dit « Bon, comment je peux faire ça? Est-ce que ma solution à 700 pourrait faire? » Puis il y a eu un inspecteur, puis c'était non, puis c'était ci, puis c'était ça. Fait qu'on en a fait un dossier complet.
Je suis un bon citoyen, je veux faire les choses correctement, puis l'inspecteur arrive puis il dit « Si tu le fais pas, je vais te donner une amende. »
Exact. Puis là, il disait « Bon, ben là, au municipal, je comprends que vous voulez satisfaire le provincial, mais bon. » Et là, la ministre Geneviève Guilbeault a mis un frein sur les nouvelles règles. Il y a un an de répit pour les propriétaires de piscine. Alors, si vous faisiez partie de ce regroupement-là de plusieurs citoyens partout au Québec qui étaient avec bien de l'insatisfaction puis qui demandaient un peu de gros bon sens, soit d'accepter de donner plus de temps aux propriétaires de piscines pour se conformer au règlement de sécurité pour les piscines résidentielles, bien sachez que vous avez un genre de répit d'un an. C'était des amendes au minimum de 500 $ qui s'accumulaient quotidiennement de façon hebdomadaire si jamais vous ne conformiez pas. Puis en plus, ça avait créé un sentiment de panique. Alors, dans les quincailleries, on avait bien... moins de morceaux et de façon d'ajuster sa clôture. Fait que les gens paniquaient. C'était au 30 septembre qu'on devait appliquer le tout. Là, on a un sursis d'un an.
Alors, excellente nouvelle pour les concitoyens de la ville de Québec et au Québec en entier. Il y a Jonathan qui nous écrit pour nous corriger. C'est 1,6 mm et non centimètres. T'as entièrement raison, Jonathan.
Oui, c'est dans les millimètres. Oui.
Et il y a Fred qui nous dit « Ouais, avoir su, j'aurais pas scrappé ma piscine cet été. » En effet, il va avoir des mécontents. Mais cela dit, Pascal, je me permets de mentionner que je crois que c'est la bonne décision qui a été prise par la ministre Guilbeault.
Ah oh, oui, oui, assurément. Puis même, on va la suivre parce que je pense qu'un an... Des fois, il y a, oui, le sursis d'un an, mm-hmm. mais il y a aussi le gros bon sens. S'il y a des cas comme celui qu'on vient de vous évoquer à 1,X millimètre, je pense qu'on pourrait s'adapter puis laisser passer certaines choses, permettre à ces citoyens-là d'élargir leur barreau versus ouais. payer 7 000 à 14 000 $
D'avoir une marge d'erreur plus grande. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as fait un autre suivi de dossier.
Oui.
Et c'est par rapport aux travaux sur le chemin Saint-Louis. Tu avais parlé avec les propriétaires du Michelangelo et du Galopin qui en arrachaient sans bon sens.
Ah, en arrachait, c'était le cas parce qu'avec les constructions en ce moment, c'était des détours de 30 à 40 minutes. On les questionnait, ces clients-là aussi, qui arrivaient aux abords des voies en construction. Disaient, vous allez où? Vous êtes sûr vous allez au restaurant? C'était complexe. Les commerçants, les restaurateurs du coin, entre autres
les commerçants du coin, ben là...
Excusez-moi, un restaurant, je vais le retrouver qui a fermé.
Ah, la fenouillère!
La fenouillère, j'ai eu une absence mentale. Je suis pas sûre qu'un restaurant s'appelait la fourmilière.
Voyons, qu'est-ce qu'il y avait de fourmis qui commençaient à fourmis dans le coin? La fenouillère!
L'an dernier,
t'es tout pardonné, Pascal CV.
On a péri dans ses constructions. Alors, on veut pas qu'une institution comme le Michelangelo de 50 ans, qui représente et qui a ouvert une grande porte de la gastronomie ici avec Nicolas Cortina dans la ville de Québec ferme pour une histoire de « les clients ne sont pas capables d'aller manger ». On avait des pertes de 15 à 20 % dès que ça a commencé. puis ouais. les commerçants comprenaient, étaient en accord avec les travaux, mais demandaient un genre de subvention, une aide en fait municipale et ou provinciale pour justement essayer de survivre financièrement. Pour Nicolas Cortina, eh bien, il se donnait jusqu'à Noël avec le Michelangelo. Après, il était vraiment pas certain d'être capable de survivre. Et pour le Galopin, ben, c'était plus complexe encore parce que c'était un nouvel achat. Le restaurant était passé entre les mains d'un nouveau propriétaire. Puis ça faisait 2-3 ans là, qu'il subissait un peu les remous de ce que vit la restauration dans les dernières années. Et il y a un des députés bien implantés, Pascal Paradis, dans Jean Talon, pour le Parti québécois, qui est venu nous voir en studio dernièrement. Et quand il est sorti, hors d'onde, on s'est mis à jaser de cette difficulté-là, aux abords des ponts, à circuler, puis les commerces qui en souffrent. Il avait dit, bien, justement, là, moi, je vais parler aux commerçants puis je vais voir ce que je peux faire parce que, bien que le municipal dise, on renvoie la balle au provincial, c'est des travaux provinciaux, puis que le provincial dise, bien, la municipalité pourrait les aider, c'est pas à nous de faire ça, c'est pas dans nos papiers puis dans nos possibilités. M. Paradis avait dit, non, on laissera pas ça aller, puis moi, je vais parler aux commerçants. Alors, il s'est dit... qu'elle allait le faire la semaine dernière. Moi, j'ai rappelé M. Paradis, puis j'ai dit, vous en êtes où dans vos discussions?
T'es cette tannante-là, toi.
Moi, je voulais savoir, finalement, c'était quoi les discussions, si c'était juste une parole de politicien qui passe dans nos studios. Alors, il est effectivement là-dedans depuis plusieurs semaines, Pascal Paradis.
Je pense qu'on peut les qualifier de travaux extraordinaires qui ont des conséquences hors de l'ordinaire pour ces commerçants qui voient leur chiffre d'affaires diminuer de manière très, très, très importante. Et ce n'est plus une question de mois, ce n'est peut-être pas une question de semaine, c'est une question de jours. Il faut y réfléchir. Donc, je suis en communication avec le nouveau ministre des Transports, Jonathan Julien, avec le nouveau ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard. Je suis en communication avec eux depuis quelques semaines. Je les ai alertés sur le caractère exceptionnel des travaux et de leurs impacts sur les commerçants. Ils viennent de prendre leur dossier, donc le remaniement a eu lieu la semaine dernière, et je les ai invités à venir sur le chantier pour constater de visu de quoi on parle, parce qu'il faut vraiment être là pour comprendre à quel point c'est devenu difficile pour la clientèle d'accéder à ces commerces-là, et donc que ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Nous sommes en discussion actuellement pour trouver une solution.
Alors, vous comprenez, M. Paradis est au Parti québécois au provincial. Il avait des conversations depuis plusieurs semaines avec Jonathan Julien au provincial aussi, sous la CAQ, et M. Jean-François Simard sous la CAQ aussi. Écoute, moi, ça me faisait rire parce que je me dis plusieurs semaines, mais il n'y avait pas encore leur nouvelle fonction, ces deux ministres-là, parce qu'on les appelle ministres
en
maintenant.
Effet.
Est-ce que vous étiez au courant qu'elle est passée à de nouveaux postes ministériels? C'est comme un petit aparté là, dans mon dossier. Finalement, ben non, c'est parce que M. Julien était responsable de la capitale nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent en collaboration, des partis opposants en collaboration sur ce dossier-là.
C'est important pour la capitale nationale, c'est la réussite de tout ce plan d'ensemble qu'on a pour l'arrivée à Québec et pour toute la bordure du fleuve Saint-Laurent. Donc, je lui parlais à titre de ministre de la capitale nationale. Jean-François Simard, lui, il vient de prendre ses fonctions. Puis je dois dire que tous les deux, donc, m'ont quand même répondu rapidement après le remaniement. Je pense que tout le monde doit saisir l'urgence d'agir dans ce dossier-là.
Je suis content de voir ça, Pascal, qu'on travaille les partis politiques ensemble parce que tu nous l'avais tellement bien rapporté, le désarroi, justement, des commerçants dans le coin. Puis je me souviens du détour, là, sans bon sens, où on revient en dessous du pont de Québec pour venir. Puis là, il faut demander la permission à un signaleur de passer. Là. On s'entend, t'as pas de clientèle dans ce temps-là.
Non, pas du tout. Puis là, c'est un enjeu important. Le capital politique n'est pas à faire là-dessus.
Du tout.
Peut-être que M. Paradis a une partie de ça, mais moi, je ressens pas ça de sa part. Je ressens vraiment que c'est dans sa circonscription, dans son comté. Donc, il se donne pour ces travaux-là qui étaient prévus. Les impacts sont majeurs, on le savait, c'est constatable, c'est terrible. On dit qu'on va tout faire puis tout mettre en œuvre pour essayer de faire venir les ministres pour qu'ils voient tout ça. L'affaire est que moi, j'épluche les CV de nos nouveaux politiciens quand ils se lancent. Et je sais très bien que M. Paradis a travaillé comme avocat depuis longtemps. Et il y a un enjeu juridique dans tout ça. M. Cortina, le restaurateur du Michelangelo, avait dit, ben moi, j'ai déjà pris un peu mes dispositions juridiques là, parce que je dois être aidé, puis c'est pas vrai qu'on va fermer pour ça. J'ai posé la question à Pascal Paradis. Est-ce que vous avez regardé les enjeux juridiques dans le dossier?
Bien sûr que j'ai regardé le côté juridique, là, puisque j'ai un passé en droit municipal, en droit des affaires aussi. Il y a des enjeux juridiques. Mais à un moment donné, il faut se dire qu'à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. ce ne sont pas des travaux qui ont des impacts anodins. Vous l'avez mentionné, c'est une perte majeure de chiffre d'affaires. Moi, je suis allé au Galopin. Je suis allé manger au Galopin. C'est évident qu'il y a moins de clientèle que d'habitude. Je suis allé voir M. Cortina au Michelangelo. Il y a moins de monde que d'habitude parce que c'est difficile de s'y rendre, parce que ce sont des travaux exceptionnels. Donc, il faut réfléchir à une solution. Je comprends qu'il y a un cadre, je comprends qu'il y a des normes, je comprends que c'est peut-être pas adapté à la situation actuelle, mais c'est pas ça que les commerçants veulent entendre. Ils veulent qu'on discute de solutions, de comment on s'assure qu'ils vont être là quand les travaux vont être terminés. Parce que ce qu'on veut pas, c'est couper un ruban d'un secteur réaménagé, puis on espère que ça va être un succès, ces travaux-là. Tout le monde le souhaite, les commerçants le souhaitent, mais on veut pas couper le ruban, puis que des commerçants qui sont là depuis des décennies n'aient pas pu passer à travers cette période difficile.
Ça, c'est normal. On souhaite que tout le monde survive à ça. On ne fait pas des travaux pour perdre nos entrepreneurs. L'affaire est que les restaurateurs se disent souvent oubliés par le gouvernement provincial depuis la pandémie. C'est un peu les enfants meurtris de tout ça. Ils essaient de rattraper leur chiffre d'affaires, de rester vivants. Très complexe à ce niveau-là. Je lui ai demandé, parce que si le PQ réussit à prendre le pouvoir aux prochaines élections, comment est-ce qu'on va administrer toutes ces subventions-là?
On va-tu
rester avec des multinationales ou on va se concentrer un peu plus sur les PME?
Depuis 7 ans, on a assisté à un gouvernement qui, en matière économique, a mis tous ses œufs dans le même panier, et c'est le panier des grandes multinationales étrangères à qui on a offert un bar ouvert, si vous voulez, avec des centaines de millions, en fait des milliards de subventions, tout en oubliant que le cœur de notre économie, ce sont des PME comme les restaurants. C'est des gens passionnés qui travaillent dur, c'est souvent leur propre entreprise. Et nous, ce qu'on propose, c'est de réaligner le programme gouvernemental en matière d'économique pour accompagner nos PME. Imaginez, là, si on prend là, tous ces milliards, ces centaines de millions donnés en subvention au PIF, on ne sait pas exactement pourquoi telle entreprise était favorisée par rapport à une autre, offert là, dans le bar ouvert aux multinationales étrangères, et on les transforme en mesure d'allègement fiscal, d'allègement administratif pour les PME, comme les restaurateurs de notre région, ça va vraiment changer la donne. Et nous, c'est ça la vision, c'est ça qu'on offre à nos PME et à nos restaurateurs de la région.
Il y a deux choses dans les deux derniers extraits que tu nous as envoyés, Pascal, que je retiens de très positif. De un, il faut sortir de la fameuse bureaucratie et du processus rigoureux. Quand c'est exceptionnel...
À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle.
Ça prend une solution exceptionnelle. On n'a pas le choix, sinon nos commerces vont mourir. Et la deuxième chose, c'est de réinvestir dans nos PME, dans notre fierté, dans nos restaurateurs, dans ce qui fait de nous, le Québec, quelque chose de distinct. Ça, j'adore ça.
C'est sûr que ça va avec les valeurs du PQ, mais honnêtement, entendre ces deux choses-là... Moi, je vais le surveiller.
Ouais. Ah, vraiment?
Mais je trouve ça intéressant.
Vraiment, puis le Parti québécois est peut-être pas le parti pour lequel je voterai aux prochaines élections, mais Pascal Paradis fait une Moses de bon job terrain. Puis ça, j'ai pas peur de le dire.
Oh, attends, je vais quand même être un chien de garde là-dessus. Mais j'aime les discussions avec lui.
Oui, j'aime les discussions avec lui, évidemment. On fait une courte pause. Par la suite, Pascal, on va parler avec Victor Henriquez, qui est un...
analyste politique.
Ouais, excellent analyste politique qu'on entendait dans Marceau le midi, qui va venir faire un tour dans On en jase pour la première fois. Évidemment, on revient sur la démission de Maïté Blanchette-Vézina qui a écorché le premier ministre. Mais ouais. Victor, on nous parle beaucoup d'angle mort en politique. Hein? J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il a vu cette semaine que nous autres, on n'a pas vu? Qu'est-ce que moi et toi, Pascal CV, on a échappé, mais que Victor a attrapé dans son filet? C'est ce qu'on va faire immédiatement après la pause. Vous êtes à Boulevard 101, l'émission On en jase.
C'est la rentrée. Peut-être que les semaines sont un peu plus difficiles qu'à l'habitude, mais comment se passent vos matins? Vos matins sont rock'n'roll, sont dynamiques. Si vous avez des enfants, c'est sûr. Sont rock'n'roll, sont dynamiques parce que vous avez la boue dans le toupette au travail. Si vous en avez même des relax, sereins et zen, ben on vous salue puis on parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que le matin, ça fait toute la différence quand tu as une routine café. Une routine qui commence avec un bon café pour faire tout ça avec bien de la force pour la suite. Et ça, Bab, a tout ce qu'on qu'on a besoin. Je vous en parle de Sobab, c'est un partenaire qui est fidèle ici à Boulevard 102.1. C'est une entreprise familiale, c'est des gens qui ont tatoué sur le cœur le fait de penser à vous, à ce que vous préférez, à vous faire goûter des choses, à trouver c'est quoi votre grain favori. Puis là, on le sait, vous avez la boue dans le toupette. Alors, assurément, tu as peut-être une envie très précise de toi te gâter, puis de faire en sorte que ça va te suivre pendant plusieurs années, puis c'est une nouvelle machine à café. Une machine peut-être automatisée ou une plus manuelle, ça dépend de la routine de ta famille, ta routine personnelle. Mais si t'es plus manuel, tu vas trouver tout ce que tu as besoin avec les machines L'Élite. Et si jamais tu es une personne un peu plus automatique, moi, cliquer sur un bouton, ça fait mon affaire. Ça, ça te parle? Jura. Du côté de chez Sobab, on va te montrer tout ce que tu as à savoir. Parce que oui, ça fait une différence, le grain que tu mets là-dedans. Oui, ça fait une différence, la machine que tu utilises, l'eau. Tout fait une différence. Et sans oublier la panoplie, justement, de café qu'on va t'offrir. Tu vas voir, tes matins vont changer. Et ça, c'est grâce à la famille Sobab. Famille qu'on est bien fiers de représenter ici à Boulevard 102.1, sur la 3e avenue, à Limoilou.
Saviez-vous que Vacances Sunwing...
Émission On en jase, midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Va suivre le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. C'est pas Marceau ce soir, c'est le Garage à Dan ce soir. Et par la suite, bien lundi, c'est toute l'équipe qui est de retour de semaine avec Marceau le matin, le point de max. Marceau le matin de 6 à 10 et le point de max de 10h à midi. Pascal Sévin, tu me fais un beau cadeau à midi.
Oui, je t'amène un des meilleurs collaborateurs en politique. C'est sûr que je l'aime foncièrement parce qu'avec lui, c'est autant dans le débat, dans l'analyse, ouais, que dans la critique, que dans l'observation. Je l'aime et tu le sais, donc je te le partage. Là.
Merci, t'es très gentil. C'est Victor Henriquez qu'on a au bout du fil, analyste politique. Monsieur Henriquez, comment allez-vous?
En passant, monsieur, c'est mon père, mais ça va très bien.
Ben, je vais t'appeler Victor avec un super plaisir. Victor, je veux qu'on commence par les élections municipales parce que Sam Ahmad a présenté son candidat dans le district de Saint-Roch, qui est justement le restaurateur Napoléon Wu. Et il est revenu sur sa décision de départ de dire « je vais faire un seul mandat ». Est-ce que la campagne de Sam Ahmad est déjà trop dans le trouble pour qu'il puisse remonter la pente? J'ai l'impression d'entendre une girouette présentement.
Les élections municipales, c'est 45 jours. Hein. C'est parmi les élections les plus longues qu'on a. Donc, je pense qu'il y a encore tout à jouer pour Sam Ahmad, mais c'est clair que ça a été un début de campagne, une pré-campagne difficile dans le cas de M. Ahmad. Il faut dire aussi qu'à Québec, la division, elle est particulière. Hein. C'est probablement la course la plus serrée qu'on a à travers le Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs candidats, M. Lachance, M. Ahmad, M. Villeneuve, Mme Smith, qui font la lutte à Bruno Marchand. Et ultimement, ce que ça fait, c'est que ça fait une division de l'opposition qui est assez importante et qui fait probablement que Bruno Marchand risque de passer à cause de cette division-là. Alors, oui, on a tout à réécrire, mais du côté de Salomade, on doit recentrer la campagne sur vraiment ce que les citoyens de Québec veulent. Et du côté des autres, ça va être toute la question du déficit de notoriété, Jean-François Pascal, parce que ça reste qu'au municipal, c'est super important. Notre participation est toujours aux alentours de 30-40%, puis les candidats les plus connus ont souvent un avantage dans des circonstances comme celle-là.
Je ne sais pas si on se trompe en affirmant ça. En fait, je vais laisser Jeff penser par lui-même. Je ne veux pas lui mettre les mots dans la bouche, mais j'ai l'impression que les citoyens sont très, très impliqués en ce moment dans la campagne municipale.
Vraiment.
Comparativement à ce qu'on peut avoir vu auparavant. À Québec, il y a quelque chose depuis une dizaine d'années. Là, l'implication est là quand même, et ça se manifeste beaucoup par nos textos au 88-971-1021. En ce moment, par exemple, on a l'impression d'avoir de la pauvre politique, de la politique maigre. Nous autres, ça chicane, ça s'envoie des insultes, ça se traite de mafioso. Je te jure, Victor, c'en est gênant. Je ne sais pas si tu as eu écho de ce qui se passait à Québec.
Oui, j'ai entendu beaucoup de choses, puis j'avoue que ça joue très, très bas. J'écoutais notamment hier la déclaration de Covina qui disait que Sam Ahmad l'avait menacé. Je vais être très transparent. Je connais Sam Ahmad depuis de nombreuses années. Il peut avoir des qualités et de nombreux défauts, certainement, mais j'étais un peu surpris par les déclarations puis la façon dont ça a été pris. Faut faire attention. Faut baisser le ton de cette campagne-là parce que c'est très long, 45 jours, et parce que les citoyens vont finir par se tanner de ce genre de ton-là aussi. Hein. Il faut se le rappeler. rappeler. Ce qu'on fait dans au municipal, c'est la politique la plus proche des gens. C'est pour ça qu'à Québec, ça pogne autant, parce que vous avez des enjeux importants à Québec. Le tramway, le troisième lien, toute la question des services à Québec, toute la question des commerçants aussi, notamment, vous avez parlé de Saint-Roch. Saint-Roch, c'est un quartier où est-ce qu'il y a des commerçants qui sont mécontents de la gestion de la ville. Alors, c'est des enjeux qui sont très proches du monde. Et dans ce temps-là, il faut pas faire de la politique spectacle, il faut faire de la politique proche des gens. Et c'est là où je surveille notamment Stéphane Lachance, parce que je trouve qu'il fait une bonne remontée parmi ces candidats-là, ancien candidat conservateur, un ton peut-être qui ressemble plus à ce qu'on entend à Québec ces temps-ci comme mouvance. Alors, je serais curieux de voir comment est-ce que ça va finir la course. Et au municipal, on voit souvent des underdogs ou des gens moins connus monter au fur et à mesure d'une campagne en puissance et finir très proche du gain. Moi, j'ai un exemple à Montréal qui a été celui de Mélanie Joly, par exemple, qui était quasiment inconnue au début de la campagne contre Denis Coderre et Valérie Plante, puis qui avait fini à 20-quelques%. Et ça se passe dans toutes les villes. Donc, vraiment, c'est une invitation aux gens à faire attention, aux politiciens, aux candidats, en ce moment, à faire attention à leur ton, parce que les gens de Québec sont impliqués au municipal et ils veulent des résultats dans leur ville. Alors, mm-hmm. Les grands slogans puis les grands frachocs, pas sûr que ça pogne trop fort.
Justement, Victor, est-ce que Stéphane Lachance devient le pire ennemi de sa mamade? Et je m'explique, lors du dernier sondage qui plaçait les candidats avec des pourcentages, et d'ailleurs, Somme nous a promis qu'il va en faire un prochainement, il y avait 52% des gens qui votaient plus à gauche de l'échiquier politique avec Bruno Marchand, Claude Villeneuve et Jackie Smith, et 48% à droite. Mais là, je sens vraiment un effritement chez Jackie Smith et Claude Villeneuve au profit de Bruno Marchand, alors que Stéphane Lachance vient gruger dans sa mamade. C'est positif, ça, pour Bruno Marchand?
Complètement, et c'est son pire ennemi, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu des discussions pour tenter de le recruter du côté de M. Hamad. Hein. Mm-hmm. On aurait voulu l'avoir dans son équipe, certainement, justement pour avoir cette unité des candidats plus à droite versus les candidats plus à gauche. Et c'est vrai que, naturellement, les gens plus à gauche qui vont vouloir garder une municipalité peut-être plus progressiste, avec une vision plus environnementale et certains aspects semblables à celui-là, vont probablement faire le sacrifice de leur vote. C'est un peu ce qu'on a vu au fédéral, par exemple, avec le NPD puis Mark Carney. Hein. On a des votes de principe, mais au fur et à mesure du campagne, notre vote peut devenir un vote utile. Mmh. Et dans ce cas-ci, Sam Hamad ne représente plus seul le vote de l'opposition à Bruno Marchand. Il va devoir regarder dans son angle mort Stéphane Lachance. Et du côté de Bruno Marchand, ben, on peut au contraire espérer aller rallier les adversaires plus naturels dans une vision de la ville qui sont un peu plus proches de ce que ces gens-là veulent naturellement.
Bon, réfifi au municipal, quand même réfifi au provincial,
mais, hein?
Avec la députée qui vient de dire « Non, moi, le nouveau Conseil des ministres, je ne suis pas dedans, donc ça ne m'intéresse pas, j'ai l'impression d'avoir été trahi. » En d'autres mots, là, c'est ce qu'on peut comprendre, par son premier ministre, François Legault. Et là, vous savez de qui je parle, là, donc de Maïté Blanchette Vézina, qui a quitté le caucus de la CAQ, qui critique François Legault. Et François Legault qui revient sur les propos critiques de Mme Blanchette Vézina. Bon, est-ce qu'on peut encore dire que c'est de la base politique?
Ben, je pense que de ce côté-là, c'est plutôt attendu. Hein. Du côté de Québec, Maïté Blanchette-Vézina, qui était, pour les gens qui la connaissent moins, ministre des Forêts, notamment, qui avait déposé une réforme forestière qui a été très décriée, notamment par les communautés autochtones. Donc, tout ça pour dire qu'elle n'avait pas nécessairement eu le mandat comme ministre avec le plus grand succès, la plus grande tranquillité autour de ses dossiers non plus. Là. Elle quitte parce qu'elle est, d'abord, elle est frustrée de ne pas être ministre et aussi parce qu'elle dit avoir perdu confiance en son chef. Ça fait à peu près une semaine qu'on voyait ça venir. Je m'attendais à ce que François Legault réplique, bien sûr. Et il faut aussi dire que lors du caucus, Mme Blanchette-Vézina a eu des mots très durs envers son chef. Et les membres du caucus se sont majoritairement ralliés derrière François Legault. Pourquoi je dis ça? Parce que malgré la sortie de Pierre Dufour, qui a été renvoyé du caucus, malgré Maïté Blanchette-Vézina, on ne sent pas encore de vague de fond interne contre François Legault. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut bouger? Tout à fait. En politique, ça peut arriver très rapidement. Pourquoi je vous parle de vagues internes? Parce que c'est bien beau les sondages et tout ça, mais la réalité, c'est que pour qu'un chef quitte, ça prend de l'interne qui vous sorte. Puis le meilleur exemple, c'est Justin Trudeau. Qu'est-ce qui est arrivé à Justin Trudeau? C'est quand Chrystia Freeland s'est fait dire « Tu t'en vas du ministère des Finances ». Elle a fait une sortie en règle et elle a catalysé tous les gens à l'intérieur du parti qui s'opposaient à Justin Trudeau. Dans le cas de François Legault, on n'est pas encore rendu là. Est-ce qu'on pourrait s'y rendre? Probablement. Puis, je vais vous donner un nom. François Bonnardel. François Bonnardel, qui n'était pas au caucus de jeudi. François Bonnardel, qui est un historique de l'ADQ, de la CAQ, qui fait partie des grands fidèles à François Legault. Si François Bonnardel, par exemple, venait à se virer sa chemise de bord, si quelqu'un avec cette ampleur-là venait à dire François Legault n'est plus l'homme de la situation, là, on pourrait voir une mobilisation, d'après moi, beaucoup plus forte. Dans le cas de Maïté Blanchet-Bézina et Pierre Dufour, leur discours sur les régions est très intéressant à entendre, puis il est très vrai que François Legault n'a pas nommé de ministre dans ces régions-là, de la Gaspésie puis de l'Abitibi. Cependant, je ne pense pas qu'ils ont la traction interne à la CAQ pour vraiment créer une vague de fond contre le Premier ministre.
Donc, ça prend quelqu'un vraiment qui a une expérience politique et qui a déjà géré de gros ministères, comme on l'a vu avec Chrystia Freeland, qui était justement la ministre des Finances, et là, François Bonnardel, qui est une ancienne grosse tête. Est-ce que si François Bonnardel tourne la tête à la CAQ, il va être tenté d'aller rejoindre quelqu'un avec qui il a déjà travaillé en politique provinciale, c'est-à-dire Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec?
Je serais surpris que la réflexion aille aussi loin que ça, honnêtement, parce que François Bonnardel a une histoire longue avec la CAQ. Il est connu comme un homme très loyal à ses idées politiques. Donc, je ne pense pas que ça irait aussi loin que ça, mais voilà, François Bonnardel a la qualité d'abord d'être connu du public, c'est la première chose, mais aussi d'être apprécié à l'intérieur de son parti, très apprécié à l'intérieur de son parti. Et c'est ça le tout grand point en commun avec Chrystia Freeland, c'est qu'ils ont la capacité de... Les gens vont se dire, mon Dieu, si eux bougent, si eux ne sont plus d'accord, peut-être que je devrais me poser des questions. Cette capacité d'influence-là qu'ils ont, je pense que c'est elle qui peut faire des dommages. Je serais surpris de le voir ailleurs. Je serais même surpris de le voir se représenter, honnêtement. Je pense que pour François Bonnardel, la déception doit être très grande. Il le gère autrement, peut-être dans une sphère plus privée. On a tous très hâte de l'entendre, honnêtement, parce que on pense tous qu'il a payé pour sa clique, mais il a peut-être aussi payé pour d'autres choses. Ce serait intéressant d'entendre sa vision là-dessus. Donc, à suivre. Mais pour l'instant, je pense qu'on est quand même dans des dommages que M. Legault pourra contrôler. La réalité, c'est que les gens qui nous écoutent sont tellement barouettés dans plein d'informations que dans une semaine ou deux, on va probablement oublier Maïté Blanchet-Bézina et Pierre Dufour.
Victor, je viens d'enregistrer un podcast avec Joël Boutin, l'ex-député de Jean Talon pour la Coalition Avenir Québec, qui sera disponible dans deux semaines. Et elle me dit dans le podcast, moi, j'aime pas ça quand les gens comme Maïté Blanchet-Bézina font une sortie publique contre le chef, contre le parti politique qui les a mis au monde. Moi, quand je suis parti, je ne l'ai pas fait parce que j'ai énormément de respect pour le premier ministre et la CAQ. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu es plus Joël Boutin ou plus Maïté Blanchet-Vézina?
Moi, je suis naturellement plus Joël Boutin. Je pense que dans leur cas, surtout à la Coalition Avenir Québec, il y en a plusieurs qui doivent leur élection presque exclusivement à François Legault. Il faut se le rappeler, en 2022, lorsque l'élection arrive, François Legault, il marche sur l'eau, littéralement. Et à peu près n'importe qui se présente dans son parti, dans l'axe du fleuve Saint-Laurent, se fait élire à ce moment-là. C'est pour rien qu'on a fini à 90 députés. Donc, je pense que chez les gens, on oublie un peu ça. Je pense que oui, il y a des choses qui se disent à l'interne avant de se dire à l'extérieur. Maïté Blanchet-Bézina a dit au caucus, mais rapidement est sorti à l'extérieur. Alors, je suis vraiment plus partisan des chicanes de famille qui restent dans la famille. Maintenant, il y a une chose, par exemple. À un moment donné, si les chefs ne sont pas prêts à écouter ce qui se dit à l'intérieur, là, ça peut sortir. Je pense que c'est ça la différence. C'est que dans le cas de François Legault, à l'intérieur, il y a encore un appui. Mais c'est inévitable que si ça se multiplie et qu'à l'intérieur du caucus, à l'intérieur de la famille, on critique et qu'il n'y a pas d'écoute, ben là, ça risque de sortir. À ce moment-là, c'est justifié que ça sorte parce que ça veut dire que la méthode douce, diplomate, ne fonctionne pas.
Victor, on aimerait faire un petit tour du côté des États-Unis maintenant parce que, veux, veux pas, c'est dans notre angle mort en ce moment, mais c'est un angle mort qui va nous rentrer dedans pas à peu près si on décide de tourner à gauche. Honnêtement, ça divise la population, cette mort de Charlie Kirk. Ça amène énormément de questionnements aussi sur la liberté d'expression, entre autres l'émission de Kimmel qui a été arrêtée, en fait, dans le sens où M. Kimmel n'a plus le droit de l'animer, il est sanctionné, on l'a retiré des ondes. Hier, on avait Jimmy Fallon qui a pris la parole. Il l'a fait de main de maître, honnêtement. Pour le contexte, pour les auditeurs. Jeff, je sais pas si tu as vu.
Oui, j'ai
mais
vu.
Jimmy Fallon est arrivé en onde et lui, là, il a annulé toutes ses affaires dans son horaire dans les dernières heures. Il attendait d'être en onde dans son émission pour faire un certain appui envers Jimmy Kimmel, qui est son adversaire veut pas de talk show.
Exactement.
Puis il a fait une allocution qui était et se voulait assez critique de Donald Trump et son administration pour sa façon d'agir. Mais quand il était critique, ce qui passait par-dessus ses paroles, c'est un genre de jougue total. On applaudissait Donald Trump, on le faisait paraître comme un grand roi. Fait que c'est comme si moi, je parle en ce moment, à chaque fois que je critique Donald Trump, il y a une autre voix qui apparaît, qui prend le contrôle des ondes puis qui dit des choses merveilleuses sur Donald Trump. Revenons aux moutons. Maintenant, en ce qui concerne la liberté d'expression aux États-Unis, avec ce qu'on voit, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois de ça?
Il y a tellement de choses à dire, hein, et on pourrait faire 2 heures là-dessus seulement, je pense, exclusivement, mais c'est important de...
Oh, est-ce qu'on a perdu Victor avec un « c'est important de... » Si jamais tu veux vérifier, Pascal,
la ligne s'est coupée, je vais la rappeler.
Ouais, exactement. Donc, en attendant, là, justement, vous mentionnez qu'on parlait avec Victor Henriquez, analyste politique, et qu'on était rendu à parler de la liberté d'expression aux États-Unis. Vous rappelez que Karl Malenfant se fait vraiment brasser à l'heure actuelle à la commission Gallant. On a mis en preuve, justement, le fait que M. Malenfant s'était transféré lui-même sur son courriel personnel, la soumission de la firme Deloitte, qui n'a pas gagné, justement, la soumission. Ça a été le groupe SAP qui l'a emporté. Alors, on pose des questions là-dessus à Karl Malenfant, qui a eu besoin d'une pause parce qu'il s'est lui-même autoproclamé.
Oh, il y a eu chaud. Puis on a parlé avec Nicolas Lachance, journaliste au Journal de Québec. Ce sera sur le site web de blvd.fm tantôt.
Victor Henriquez est de retour parmi nous. Victor, te dis, on pourra en parler pendant 2 heures. Hey, il y a zéro problème, mon ami. On pourra en parler pendant 2 heures. Tu vois ça comment, la liberté d'expression, est-ce qu'elle est brimée aux États-Unis à l'heure actuelle de la façon que Donald Trump gère le tout?
La liberté d'expression est brimée et là, il s'attaque à un morceau très, très lourd parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les artistes, ces gens comme Jimmy Kimmel qui font partie du gratin d'Hollywood, sont une espèce de royauté aux États-Unis. Hein. Et s'attaquer à eux, s'attaquer à ce monde-là, ça m'apparaît très risqué pour le président américain. Il y a un élément qu'il faut amener dans la discussion, c'est que dans les heures qui ont précédé la décision d'NBC, le dirigeant de la FCC, qui est la Commission fédérale des communications, avait dans un podcast menacé à mots très peu couverts ABC de prendre des mesures à cause de ce que Jimmy Kimmel avait dit. Donc, je pense qu'il faut quand même ramener en contexte parce qu'il y a eu des menaces d'un officier gouvernemental nommé par le président. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que M. Trump utilise ses alliés au pouvoir, utilise le gouvernement contre des gens qui ne sont pas d'accord avec lui pour des raisons absolument ridicules. Est-ce que Jimmy Kimmel est allé trop vite, trop loin? Je pense que oui. Je pense que les déclarations de Jimmy Kimmel, d'ailleurs qui étaient fausses, étaient risquées pour quelqu'un qui prend la parole. Et il y a une responsabilité avec une prise de parole. Mais entre ça et le canceller complètement, il y a une marge entre les deux. Je pense qu'on aurait certainement pu trouver une façon différente. Puis ça arrive de se tromper lorsqu'on prend les ondes. Il faut le reconnaître. Mais là, on est vraiment dans un autre niveau. Et lorsqu'on voit les interventions, tu parlais hier de celle de Jimmy Fallon, Pascal, mais ces interventions-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles amènent le débat complètement sur un autre niveau. Où est-ce que vous allez voir dans tout la préélection des élections de mi-mandat, vous allez voir cette dénonciation d'un président qui est en train de devenir de plus en plus autoritaire, d'un président qui est sur le bord de blâmer des droits essentiels de la Constitution, et les Américains sont très amoureux de leur Constitution. Oui. Est-ce que vraiment Donald Trump va réussir à attaquer ça? La liberté d'expression est très importante pour eux. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon terrain de jeu pour le président américain.
Du moins, il semblait vouloir le faire avec l'effet de grenouille. Tu sais, quand tu prends une grenouille, tu la mets dans une eau bouillante, là, automatiquement, elle va sortir. Mais tu prends une grenouille, tu la mets dans une eau froide, tu pars le feu là, à moyen. Après ça, tu montes moyen vif. Elle s'en rend pas compte. Puis finalement, elle meurt dans cette eau bouillante-là. Plus que ça s'est fait de façon graduelle, il semblait avoir ce genre de façon de faire-là, Donald Trump, au niveau d'instaurer une nouvelle façon de faire et de présider, en fait, les États-Unis et son peuple. Là, ça a été la grenouille directe dans l'eau bouillante. Parce qu'on voit même des gens qui sont habituellement très d'accord avec Donald Trump prendre la parole, des gens qui essaient de démontrer justement que la liberté de parole, ici au Québec aussi, ça fait beaucoup réagir, ça doit être défendu par n'importe qui y croit et de ne pas être hypocrite là-dedans puis d'aller de l'avant, même si on n'est pas en accord avec notre homologue qui a pris parole. Peut-être en terminant, il y a des figures aussi de la gauche, en fait. On parle de Barack Obama, on parle de Bernie Sanders et autres qui commencent à être assez vocaux sur le fait qu'on ne doit pas haïr la droite, même si c'est des courants de pensée qui sont différents de nous. On doit, au contraire, essayer de débattre ensemble et non de commencer à s'haïr.
Diviser ou pour régner, c'est clairement la vision de Donald Trump. Et je suis d'accord avec toi. Là. Il rentre dans un terrain dangereux. Il va beaucoup trop vite. Maintenant, il y a une chose, la liberté d'expression avec une responsabilité. Tout ça a commencé pourquoi? Parce que Donald Trump a pris l'assassinat de Charlie Kirk qui en a fait un élément purement politique dans les heures qui ont suivi. Il n'a pas pris le temps et la distance nécessaire pour justement être capable d'avoir un discours responsable. Il a mis de l'huile sur le feu. Maintenant, il s'étonne que ça continue. suis désolé, mais à un moment donné, on a le président qu'on choisit aussi. Les Américains ont fait un choix en sachant quelle était la personnalité de cet homme-là. On verra si dans les élections de mi-mandat, ils changent leur choix.
Hey, Victor, le rappeler, ça, Victor, ça fait deux fois que tu parles des élections de mi-mandat, puis moi, j'ai peur parce que l'élection de mi-mandat est dans un an. Comment tu me rassures? Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année aux États-Unis?
Ben, c'est justement que ce qu'on espère, c'est qu'à la vue des élections de mi-mandat, le président et son administration changent un peu leur façon de faire et soient un peu plus conciliants, soient un peu plus ouverts. Parce que lorsque tu dois gagner des élections, ben, tu dois moins être autoritaire que lorsque c'est pas vraiment important. C'est un peu pour ça que moi, je regarde cette perspective-là, parce que la réalité, c'est que c'est le seul moment que les Américains vont avoir pour passer un message au président. Et de la même façon que Donald Trump ne semble pas écouter grand monde, je suis convaincu, par exemple, qu'il écoute le résultat des élections. Même si, quand il les perd, il nous dit qu'elles sont volées. Moi, je pense qu'il est attentif à ça. Son ego nécessite d'être aimé, selon moi. Alors, c'est là où je pense qu'on peut peut-être le calmer d'ici là. Ouais. C'est un peu ça, mon espoir. Si je voulais te donner espoir pour la prochaine année...
Ah, merci, t'es gentil.
C'est vraiment de te dire, peut-être qu'il va être mieux dans l'année qui va précéder.
Victor Henriquez, merci infiniment pour ta participation à l'émission On en jase ce midi et on se reprend prochainement, c'est certain. En passant, Victor, il y a plusieurs auditeurs qui nous ont texté quand la ligne a coupé que c'était Donald Trump qui avait coupé la ligne parce qu'il ne voulait pas que tu parles contre lui. On va surveiller nos lignes téléphoniques même au Québec maintenant.
Merci à vous.
Hey, bonne journée, bon week-end, Victor. Merci beaucoup. C'était Victor Henriquez, analyste politique. Pascal, tu as l'extrait justement de Jimmy Fallon, si je ne trompe pas.
Était enregistré pour qu'on puisse l'écouter. Je vous le fais entendre sur mon cellulaire. Je m'excuse du fait que c'est en anglais et aussi de la qualité sonore, mais ça va comme suit.
Well, guys, the big story is that Jimmy Kimmel was suspended by ABC after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF. This morning, I woke up to 100 text messages from my dad saying, I'm sorry they canceled your show. I go, that's not me. That's Jimmy Kimmel. But to be honest with you all, I don't know what's going on. And no one does. But I do know Jimmy Kimmel. And he's a decent, funny, and loving guy. And I hope he comes back.
Ça vient drôle. Il va essayer de critiquer ouais. Trump. Il y a une voix qui va embarquer.
Yeah, a lot of people are worried that we won't keep saying what we want to say or that we'll be censored. But I'm going to cover the president's trip to the UK just like I normally would.
Il dit qu'il va faire une revue
exactement.
De ce que Donald Trump fait, comme d'habitude, mais...
Well, guys, President Trump just wrapped up his 3-day trip to the UK, and he looked incredibly handsome.
La voix en bas. Il continue de parler.
As always, his tie was exactly the right length. And his face looked like a color that exists in nature. And his hair looked better than Conrad's from the summer I turned pretty.
Ça a été une... incroyable.
Ça continue comme ouais. Ça là, pendant...
Extraordinaire façon, justement, de passer le message côté de Jimmy Fallon. On espère, justement, puis même on espère, c'est sûr que ça va se faire, que la communauté artistique aux États-Unis va se tenir puis va continuer, justement, à combattre pour la liberté d'expression dans notre pays voisin du Sud.
S'il voulait diviser Donald Trump, chose certaine en ce moment, il y a des gens de la droite et il y a des gens de la gauche qui semblent vouloir aller au centre en ce qui concerne cette liberté d'expression.
C'est clair, parce que les gens de la droite et aussi de la droite radicale réclament cette liberté d'expression jour et nuit. Donc, d'aller pour Donald Trump à l'heure actuelle, c'est d'aller à l'encontre de, justement, un de leurs objectifs premiers, qui est cette liberté d'expression-là. Merci, Pascal, pour ceci. Merci pour la collaboration de Victor Henriquez. Et là, non, on ne lui coupera pas le sifflet. C'est Lambert Drainville qui s'en vient après la pause. Il veut nous parler, justement, de ce qui se passe en interne à la CAQ. Puis on va faire un petit détour aussi par la commission Galant parce que, ouf, moi, j'ai enlevé mon gros gilet, Pascal. J'avais chaud, je suis en chemise, en manche courte, mais je pense que Carl Malenfant voudrait être en torse à l'heure actuelle tellement il a chaud à la commission Galant. Donc, on va parler de ceci après la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Émission On en jase à l'antenne de Boulevard 102.1. Il est présentement 13h08. C'est une très, 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 très belle journée sur Québec. À la météo, c'est 18 degrés ensoleillés aujourd'hui. 17 degrés plein soleil samedi, 20 degrés plein soleil pour dimanche. Donc, on va avoir un très, très beau week-end. Avant d'aller rejoindre notre ami Lambert de Rainville, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité? Il y a notamment un pont de Québec qui tombe sur des gens
ouais.
qui, là, va être fermé.
Oui, celui où la citoyenne l'accusait, en fait, de se faire vider une chaudière de roche à tête quand elle passait sur le pont de Québec, a fait bien réagir cette semaine. Hein? Mais le pont de Québec sera encore fermé à la circulation. Ça va être pour tout le week-end des entraves majeures qui sont prévues aussi dans le secteur Sainte-Foy pour le pont. Il va falloir s'armer de patience parce que c'est complètement fermé dans les deux directions toute la journée de demain, donc de samedi à partir de 7 heures. Et ce sera aussi fermé dimanche matin jusqu'à 10 heures. Donc, à partir de 10 heures dimanche, vous allez pouvoir circuler sur le pont de Québec. Rappelez-vous seulement de cette information-là, vous allez vous en sortir un peu mieux. On dit que le trottoir va rester ouvert pour les piétons et les cyclistes. Pour le boulevard Laurier, bien, c'est toute la fin de semaine où ce sera fermé en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie. Et pendant la fermeture, le trottoir est aussi fermé. Alors, passez pas par là, finalement, tout simplement. Vous allez devoir emprunter le trottoir de l'autre côté du boulevard. L'accès au commerce, ça va se faire, mais vous savez comment c'est difficile. Il faut prendre le boulevard Hochelaga. Sinon, course à la mairie de Québec, Sam Hamad tranche. Il revient un peu sur ce qu'il avait déjà affirmé. Le
ben
fait
oui, qu'il hein.
allait solliciter un seul mandat si jamais il était élu. Mais là, il est vraiment revenu avec cette information-là. Il tranche pour un seul mandat. Il a lancé sa campagne officielle aujourd'hui avec une équipe incomplète, par exemple, à la suite du désistement d'une candidate. Et il dit qu'il va être là pour un an si on l'amène à diriger la ville de Québec. La santé publique déclenche une enquête sur la SLA dans Charlevoix. On a demandé ça. Plusieurs citoyens... Et même que Christian Dubé, ministre de la Santé, avait perdu quelqu'un de près de lui dans les dernières années pour la SLA. Puis il s'est dit, OK, c'est vraiment particulier qu'au moins 24 habitants de Charlevoix-Est ont développé la maladie depuis l'an 2000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on a ouvert une enquête, la Santé publique de Québec qui a déclenché tout ça. C'est multiplication des cas. On veut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Y a-t-il des choses qu'on peut éviter? Très important et honnêtement, assez fulgurant à constater. Puis peut-être que je vais faire un clin d'œil à ce qui se passe du côté du fiasco de la SAQ Click avec la commission Galant. Je sais qu'on va en parler avec Lambert, mais Carl Malenfant n'a vraiment pas une belle journée. Il a été surpris à mentir. Il a eu chaud. On a demandé une pause vraiment loin d'être facile.
On va justement rejoindre Lambert Drainville, notre chroniqueur politique et excellent vulgarisateur. Lambert, dans quel habit t'es mieux être? Celui de François Legault ou Carl Malenfant?
Il y a une troisième option. Hein,
mais pourquoi tu ne veux pas être dans un de ces deux habits-là? Explique-moi, Lambert.
Hein, honnêtement, par contre, si j'ai à choisir, je prends quand même François Legault, là, dans le sens que son intégrité n'est pas mise en question. Bon, ça va mal politiquement et on va en parler, mais M. Malenfant, l'étau se resserre. Puis, écoute, on pourra en reparler plus tard, là, mais bien honnêtement, c'était à se demander s'il n'avait pas témoigné plus tôt, s'il n'avait pas témoigné avant le remaniement ministériel, si on aurait eu les conséquences qui ont suivi par rapport à M. Bonnardel, par rapport à Mme Guilbeault qui a perdu son titre de vice-première ministre. Bref, ces questions-là se posent.
Ben, c'est bien que tu nous amènes là-dessus, tu nous amènes dans un angle politique. Tout à l'heure, avec Nicolas La Chance, Journal de Québec, on est allé vraiment sur l'angle commission, ça clique et fiasco, responsabilité de Carl Malenfant. Est-ce que le PM s'était obligé à faire un remaniement ministériel en ayant parlé le 30 juin dernier? Puis est-ce que, compte tenu du délai que la commission Galant, il a été pris de court?
Oui, parce que je pense que c'était pas prévu initialement, lui, qui allait comparaître le premier ministre. Je pense qu'il y a eu des ajouts, son directeur de cabinet également. Les plans ont changé en cours de route. Puis c'est à la discrétion du commissaire de demander à qui bon lui semble de témoigner quand bon lui semble. Et Malenfant avait été gardé pour la fin parce que c'était celui dont le nom était le plus ressorti en termes... Puis c'est lui d'abord qui pilotait, là, en étant le vice-président aux technologies de l'information. C'est lui vraiment qui pilotait le fameux projet CASA, dont découlent ces énormes dépassements de coûts. Et donc, c'était difficile pour le premier ministre qui avait d'ailleurs annoncé son remaniement vraiment tôt d'avance, 3 mois d'avance au mois de juin, disons, de bâtir sa stratégie là-dessus parce que c'était pas prévu initialement qu'il témoigne.
C'était pas prévu, ça a été fait. Au niveau également de d'autres témoins, ça semble être plus volumineux, plus difficile que l'on pensait. Ça semble très, très chaud, puis clairement, on ment devant la commission Galland, mais pourtant, on le fait sous serment. Lambert, comment c'est possible?
Ben c'est possible, je veux dire, c'est ça qui est ça.
Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est ça que tu as
dit? Oui, exact. Qu'est-ce que tu veux? Le gars, il a menti. Sous serment. On verra ce qui en découle par la suite, mais on s'entend que depuis le début, avant même qu'il mente officiellement comme aujourd'hui, c'était extrêmement glissant. On voyait qu'il avait chaud. On voyait qu'il souhaitait imposer son narratif. Fait que le commissaire l'a remis à l'ordre à de nombreuses reprises, lui demandant simplement de répondre aux questions. Le gars essayait vraiment présenter sa propre réalité. En répondant à la réalité qu'évidemment le procureur essayait de monter. Bien honnêtement, c'est extrêmement difficile. Puis n'importe qui a pris une demi-heure pour regarder cette commission-là. Puis bien franchement, tu pourrais quasiment l'écouter sur mute. Que...
Tu sens le malaise, tu sens que ça fonctionne pas, qu'on est stressé.
Non, il est stressé. Puis écoute, il était préparé. Là. Ça fait des semaines que ses avocats le préparent. Mais à un moment donné, que veux-tu? Le commissaire Galland et son équipe aussi ont eu beaucoup de temps pour se préparer pour ce témoignage-là. Clairement, il l'était. Et comme je disais au début, l'étau visiblement se resserre. Puis ça va être intéressant de voir quelle va être la suite des choses dans son cas parce que c'est pas une commission, c'est pas un tribunal dans lequel peuvent être déposées des accusations criminelles, mais ça n'empêche en rien que s'il y a des informations là-dedans qui sont de nature à possiblement déposer des accusations criminelles, c'est quelque chose qui pourrait suivre en deuxième temps. Moi, c'est quelque chose que je vais regarder de près parce qu'à un moment donné, là, il y a des maudites limites, il y a des gens qui doivent être tenus responsables. Puis quand t'as des chargés de projets comme ça, qu'ils soient des politiciens ou qu'ils soient, dans ce cas-ci, des gens de société parapublique, prennent l'argent des contribuables et les jettent par les fenêtres de cette façon-là, selon moi, il y a des gens qui doivent être tenus responsables. Alors, je vais suivre ça de près. Là.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Karl Malenfant est avec son petit sourire arrogant. Et là, présentement, ce sourire-là est complètement disparu. Je fais le pont avec le départ de Maïté Blanchette-Vézina hier du caucus des députés de la CAQ. Est-ce qu'un témoignage comme Karl Malenfant pourrait justement amener un François Bonnardel à claquer à la porte en disant « Hey, j'ai été traité injustement par mon premier ministre ». Je m'en vais. C'est quoi que t'entends, toi, à l'intérieur?
Non, je pense pas. Je pense pas. Ça jouera pas à ce niveau-là. S'il y a de quoi, ça va juste renforcer le narratif que le premier ministre avait déjà un petit peu installé, c'est-à-dire, oui, on n'est pas plus blanc que neige. Mes ministres auraient pu poser des questions. Moi-même, mon cabinet aurait pu poser plus de questions. Mais ce que lui dit, c'est que les grands responsables de ce fiasco-là, c'est d'abord et avant tout les gens à la SAQ. Et ce qu'on entend présentement, c'est que c'est effectivement le cas. Non, pour ce qui est de Maïté Blanchette-Vézina, ça a été une journée très, très éprouvante pour le premier ministre hier, là, d'un point de vue politique, mais d'un point de vue personnel aussi. Là, il y avait le caucus des députés, le caucus qui devait se tenir la semaine dernière ou l'autre d'avant, qui avait été repoussé à cause du ramènement ministériel. Un caucus, ça se passe toujours en deux parties. Tu as la première partie qui est vraiment des présentations. Le premier ministre, les différents ministres responsables des dossiers vont présenter des PowerPoints, des projets de loi. Dans ce cas-ci, il était question des quatre priorités que le premier ministre a mentionnées en même temps que le ramènement sur lesquelles il veut mettre l'emphase d'ici à l'élection de 2026, donc l'efficacité de l'État, l'économie, la sécurité et tout le dossier identitaire. Mme Blanchette-Vézina était absente de l'avant-midi, est arrivée en début d'après-midi de ce qu'on me dit et elle s'est assise, comme d'habitude, avec les autres élus, a écouté les différentes présentations jusqu'à temps qu'on arrive au moment qui s'appelle le huis clos. Donc, le huis clos, c'est la partie du caucus où tous les employés politiques, les gens qui ne sont pas élus, quittent la pièce et demeurent dans cette pièce-là, le premier ministre et les députés seulement. Et c'est à ce moment-là que des députés évidemment, là, ça demeure une période assez difficile pour le parti. Fait que là, c'est l'espace qu'ont les élus pour faire part de leurs interrogations, de leurs craintes. Donc, certains élus sont allés au micro et venue finalement Mme Blanchette-Vézina qui n'est pas allée de main morte, disons ça comme ça. Là. Ce qu'elle a dit en point de presse par après, c'est essentiellement ce qu'elle a dit au visage du premier ministre, qui était également devant tous ses employés. Fait que elle a dit que tout l'aspect régional n'avait pas été assez tenue en compte dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Elle a dit que des projets dans les centres urbains comme le troisième lien, comme le port de Montréal, avaient été mis de l'avant au profit de projets plus régionaux comme l'élargissement de l'autoroute 20, la desserte maritime dans l'Est. Elle a également parler de la représentation des ministres de région au sein du Conseil des ministres, disant que selon elle, c'était inacceptable que, par exemple, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, ce gros territoire-là, n'ait qu'une seule ministre, Mme Dionne, que l'Abitibi n'ait pas de ministre, que l'Outaouais n'ait qu'un seul ministre. Elle a dit au premier ministre que la place des femmes dans le nouveau Conseil des ministres, c'est absolument inacceptable, qu'on ait seulement 12 femmes sur un total de 29 ministres. Et je te dirais, la cerise sur le sundae, c'est l'attaque qu'elle a eue contre son propre leadership là, en lui disant que, disons, une retraite, ça se planifie. Un chef doit savoir le moment de préparer la relève pour assurer la continuité de ce qu'il a bâti. J'invite le premier ministre à réfléchir à son plan de relève. Et donc, très cinglant, au visage du PM, elle quitte la pièce par la suite. Et là, le premier ministre était très, très, très shaké par ce que venait de lui lancer son ancienne ministre. Et il y avait un énorme, énorme froid dans la pièce.
Est-ce qu'il y en a à ce moment-là, Lambert, qui prennent la parole pour rassurer le premier ministre? T'sais, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui en profitent pour se lever et dire « Elle a raison! »
Non, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que bon, le premier ministre était vraiment, comme je te dis, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, je pensais qu'il allait faire une crise de cœur. Il était vraiment shaké. Et là, il a dit, c'est terminé, le caucus est fini, on termine ça de même. Il n'y a pas question de continuer. Et c'est là qu'il y a d'autres élus qui se sont approchés du micro pour dire, écoutez, monsieur le premier ministre, on comprend que c'est pas quelque chose qui est facile à entendre, mais nous autres, on est là, puis nous autres, on croit encore à vous, les femmes du caucus, parce qu'évidemment que la...
T'as-tu des noms à nous nommer qui ont dit...
Non, non, j'ai pas de nom, mais c'est plus pour vous donner un portrait un petit peu.
Oui, non, je comprends très bien. Puis, est-ce que c'est une première, Lambert, une sortie aussi fracassante, t'es en plein caucus de députés comme ça?
Je sais pas si c'est une première, mais chose certaine, c'est quelque chose qui est extrêmement rarissime, là. On se rappellera en 2011, alors que Pauline Marois était chef du PQ, mais était toujours dans l'opposition. Il y avait eu tout le dossier du financement de l'amphithéâtre à Québec, justement. Et il y avait eu une grosse vague de départ là, d'élus péquistes à ce moment-là.
Notamment Louisette Lapointe, Pierre Curzi.
Louise Beaudoin, exactement. Fait que ça, c'est le dernier, je te dirais, épisode de cette nature-là que moi j'ai en mémoire. Mais chose certaine, ça a vraiment été un moment qui a été difficile pour le premier ministre. Et là, la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que c'est le premier domino d'une série qui tomberont?
Ouais, puis aussi, moi, la question que j'ai, c'est comment le premier ministre peut se relever de ça?
Ben c'est ça qui la suite des choses va y être pour beaucoup. Si ça demeure un événement isolé, ça va être plus facile pour lui de ne serait-ce essayer de mettre en application sa nouvelle stratégie puis les suites de son remaniement. Mais la chose qu'on sait présentement, c'est que quand même bien que le président du caucus et les députés sortent pour dire aux médias, écoutez, on pense pas comme Mme Blanchette-Vézina, le caucus est encore très uni. La vérité, c'est qu'on a ça fait quand même plusieurs drapeaux jaunes qu'on a. Il y a eu évidemment le départ de Pierre Dufour qui avait critiqué le premier ministre un peu sur le même sur un des angles que Mme Blanchette-Vézina a soulevé, c'est-à-dire la représentation régionale, dans son cas l'Abitibi. Tu sais, M. Lamontagne, exclu du caucus du Conseil des ministres, M. Bonnardel, exclu du Conseil des ministres, n'était pas présent au caucus hier. On sait qu'ils sont encore en train de digérer la nouvelle. Il y a Stéphane Sainte-Croix, le député en Gaspésie, qui avait également mentionné être très déçu, comme Mme Blanchette-Vézina, encore une fois, qu'il n'y ait pas de ministre attitré à sa région. Tu sais, on sent que t'as comme deux gangs, là. T'as une gang de gens qui, clairement, sont derrière le premier ministre encore, et je pense que ça demeure une majorité du caucus. Et on a comme une frange qui est, qui rentre peut-être dans la catégorie de ce que Mme Blanchette-Vézinette disait en point de presse, qu'elle a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Comme je te dis, je pense que ça demeure une minorité des gens dans ce caucus-là, mais il y a clairement des gens présentement qui se posent des questions et qui ont peur pour leur poste en 2026.
Ils ont peur pour leur poste en 2026, mais aussi, je pense, tout simplement à la politique, la suite politique. Quand un parti quitte le pouvoir avec tous les projets qu'il essaie de passer, on peut se poser des questions sur comment ça va aller. On travaille très fort au niveau de la santé, on travaille très fort dans certains secteurs. Est-ce que c'est une réussite? C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on est allé avec des chantiers ministériels importants. Lambert, avec un PQ qui est en continuité, constamment dans les derniers mois, vers le top, vers le sommet, vers l'élection. As-tu l'impression qu'on va repartir à zéro, veux-veux pas, sur tout ce qu'on a mis comme chantier de construction gouvernementaux?
Tu veux dire dans l'éventualité où un gouvernement péquiste prendrait le pouvoir?
Oui, ou n'importe quel autre parti, mais que ce serait plus la CAQ au pouvoir.
Non, je pense que tu sais, il y a des chantiers qui sont déjà amorcés. Le premier ministre était aujourd'hui en Abitibi pour faire une belle annonce au niveau des minéraux critiques.
Parce que ça, nos auditeurs, là, je te dis pourquoi je pose la question, là, sont bien inquiets. Ils veulent des changements en termes de santé, ça brasse beaucoup, on le voit avec les médecins et tout ça. Puis avec une nouvelle élection, avec un nouveau parti au pouvoir, on se demande, est-ce qu'on va retomber à zéro? Parce qu'ils trouvent qu'il y a un laxisme quand même dans le fait d'arriver à la finalité de certains projets. Et quand on y arrive, ben, des fois, ça débouche sur un échec comme la commission Galant. Je vais te dire que c'est une inquiétude qu'on voit constamment au 88-971-1021.
C'est difficile de répondre à ça, dans le sens où on ne sait pas qui va être là, on ne sait pas quelles seront leurs priorités. T'sais, si le Parti québécois rentre, ils ont certains éléments qui vont disons, concorder avec l'agenda caquiste et qui vont être un des éléments de continuité, contrairement aux libéraux qui, dans un autre, ouais. à un autre niveau...
Notamment laïcité, immigration, ouais. là, ces thèmes-là de nationalisme, le PQ va les continuer.
Donc, on comprend que s'il y a un changement de gouvernance, oui, il y a des choses qui peuvent tomber. Oui, il y a des choses qui peuvent continuer. Donc, la crainte initiale de certaines personnes peut s'avérer dans le sens où il y aurait un retard ou, en fait, pas nécessairement de continuité dans certains projets.
Oui, exact. Puis, tu sais, au final, je veux dire, c'est les gens qui vont élire le nouveau gouvernement. Si les gens élisent un nouveau gouvernement, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils souhaitent du changement. C'est d'abord et avant tout parce qu'ils ne sont pas satisfaits de plusieurs dossiers, de plusieurs éléments qui ont été faits ou pas faits par la CAQ dans les 7-8 dernières années. Fait que, tu sais, je comprends la crainte des gens. Si les gens ne veulent pas voir les chantiers caquistes tomber à l'eau, ben, ils ont toujours l'option
de voter. Bon, qu'ils votent pour la CAQ, en effet.
Mais c'est sûr que s'ils changent le gouvernement, ça apporte toujours son lot de changements.
Lambert, je termine là-dessus. L'avenir politique de Maïté Blanchette-Vézinet, si elle vient trop de se peinturer dans le coin pour qu'un autre parti politique lui fasse de l'œil?
Hey, c'est une bonne question. Moi, j'avais ma petite réflexion par rapport à ça. T'sais. Elle dit qu'elle demeure comme députée indépendante jusqu'à l'élection et elle dit aussi qu'elle souhaite se représenter. Ce qui implique deux choses, parce que, tu sais, la dernière fois qu'un député qui se présente comme indépendant a gagné une élection, c'était dans les années 60, pour te dire. Là, donc, ça n'arrive pas. Donc, si elle veut être effectivement se représenter, être réélue, elle devra nécessairement se présenter sous une bannière politique. Et là, les deux seules avenues que moi, je vois dans le moment, c'est, je pense, ce qui serait sa priorité à elle présentement, ce serait... advenant le départ de M. Legault, ben de se représenter pour la CAQ.
En effet, elle a ouvert la porte à ça.
Mais si le premier ministre s'accroche jusqu'à l'élection, ben est-ce que l'option d'aller faire de l'œil au Parti québécois...
Est-elle une souverainiste?
Moi, j'aurais tendance à dire que du peu que je la connais, je serais pas sur le cul de...
Tu tomberais pas en bas de ta chaise.
...traverser du côté du PQ. Si j'étais un dans la garde rapprochée de Paul Saint-Pierre Plamondon, probablement que j'essaierais subtilement de lui placer un petit appel, juste savoir où est-ce qu'elle se situe. Parce que mine de rien, dans leur narratif à eux, comme tu disais, Pascal, de parti qui est en montée, s'ils réussissaient en plus non seulement d'aller chercher les partiels qu'on a vus et qu'on va voir à Chicoutimi, mais d'aller volé, en quelque sorte, une ancienne ministre caquiste. C'est sûr que ça vient encore renforcer le narratif comme quoi c'est eux qui ont vraiment le vent dans les voiles.
Lambert Drainville, merci beaucoup, mon chum, pour cette excellente analyse politique. Merci de nous avoir amené à l'intérieur de ce caucus des députés hier. C'est ce que j'aime quand on parle avec toi. On a les insides très précis. J'aurais vraiment pas voulu être dans la peau de François Legault hier. Ça demandait un certain courage politique à Maïté Blanchet.
Oui, courage politique, mais tu sais, tu te mets dans la peau du premier ministre. Tu imagines, tu es un PDG d'entreprise puis tu es sans employé. Tu te fais. Tu sais, il y en a un qui s'en va puis qui roule dans la boîte en devant tous les employés. Ça devait vraiment pas être une situation confortable pour lui. Voilà.
Voilà. On te souhaite la suite. Yes, on te souhaite un excellent week-end. On se reparle mercredi prochain.
Merci, mon gars.
Salut, Lambert. Merci beaucoup. C'était Lambert Drainville qui nous a amené dans les coulisses de cette annonce fracassante de Maïté Blanchet de Vézina. Problème de circulation, Pascal?
Oui, on peut se dire qu'il y a un accident qui se serait produit sur, je reviens, Henri IV Sud, à la hauteur Sainte-Foy, la voie de gauche. En fait, carambolage, il y aurait 4 voitures, un trailer d'impliqués, des pompiers, ambulances aussi sur place. C'est un auditeur qui nous a rapporté du tout. 88-971-1021, c'est toujours efficace.
Oh oui, vous êtes nos yeux sur la route.
Je veux juste revenir avec un commentaire quand on parle de revoir des chantiers ministériels, là, des projets, tout ça. Je trouve ça super intéressant, la question qui revient de nos auditeurs là-dessus, parce que ça fait un peu écho à la dite question de « Voyons, vous vous souvenez jamais. Vous critiquez un gouvernement pendant des années. Quand vient le temps d'élire et puis d'être aux nouvelles élections, vous changez pas votre choix puis vous reconfirmez que vous voulez faire affaire avec ce gouvernement-là. » Puis je trouve vraiment, on a des intelligents là, qui nous écrivent, là, puis pas la majorité, qu'elle est brillante, cette question-là, puis elle est à saisir, parce que peut-être qu'on fait une réélection des fois d'un gouvernement en disant « Colin, ben, on veut pas retomber à zéro », mais qu'on n'est pas nécessairement satisfait. Puis que certains leaders politiques le prennent pour du cash. « Ah, donc, vous nous aimez. Ah, donc, toutes nos phrases qu'on a faites, vous les avez oubliées. »
C'est pas grave.
Donc, mais ça se peut que ça vienne de « il n'y a rien qui bouge ». Puis, à la force de changer les partis politiques, ben, on se retrouve avec une faiblesse à reconstruire certaines affaires puis à devoir demander plus de temps. Je pense que cette vision-là est aussi à prendre en compte. Je vous dis pas de voter pour la CAQ, c'est pas du tout ça.
Non.
C'est que j'analyse ce que vous nous envoyez comme questionnement. Les raisonnements de nos interlocuteurs, nos experts, nos conversations à toi et moi. Puis, je trouve ça... parfois intéressant, il faudrait que ça se rende au gouvernement. C'est pas parce qu'on vous dit oui qu'on a aimé ce que vous avez fait.
Puis dans le cas du changement qui s'en vient, et présentement, c'est le PQ qui est en avance dans les sondages depuis 2 ans, il faudra approfondir la question des médecins. Parce que pour le PQ, on le sait, ils l'ont dit, Santé Québec ne tiendra sûrement pas. On veut redonner plus de latitude aux gens qui sont sur le terrain. Si on prend exemple au niveau économique, on sait qu'on va réinvestir dans les PME. Pascal Paradis nous l'a dit tout à l'heure. On sait que tout ce qui est immigration, laïcité, tout ça, ça va continuer dans la continuité de la CAQ. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les médecins, là? J'ai pas réponse.
C'est vrai qu'on a peu de réponses au niveau santé, puis ça reste que c'est le gros nerf de la guerre en ce moment. Avec ce pourquoi Christian Dubé est devenu bien fatigué aussi à travers les derniers mois. Puis, tu sais, on sait que l'économie, ça s'en vient, nous l'ont dit aussi.
Ouais.
Fait que c'est vraiment le secteur où il nous manque l'info.
Vraiment. Fait que fais-moi penser la prochaine fois qu'on aura quelqu'un du PQ, on lui pose la question. Vous allez faire quoi, vous autres? Quelle guerre vous allez livrer à ces médecins-là? Et Christian Dubé a encore le temps de déposer son projet de loi. Donc, allez-vous respecter ce projet de loi-là? Ou vous allez faire des amendements, des modifications? Comment vous voyez cette guerre aux médecins-là? Ça va être intéressant de poser la question au PQ. Pascal CV, merci beaucoup pour ce bon questionnement. Merci à Lambert Drainville. On fait une courte pause. On va revenir avec l'essentiel de l'actualité. Un petit prélude sur le football de la fin de semaine. Et Émilie Pelletier, journaliste pour Le Soleil, excellente journaliste au niveau de la politique municipale. Elle a fait le lancement de sa mamade de campagne ce matin. Elle est présentement au lancement de campagne de Bruno Marchand. Elle va nous appeler et elle va nous raconter tout ça. C'est quoi l'ambiance? Bruno Marchand est-il là, des gens conquérants de la ville? Se sent-il dans le siège du conducteur?
Parce que vraiment, les élections municipales sont lancées.
Sont lancées officiellement aujourd'hui, même si ça fait depuis le mois d'avril qu'on en parle. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On en jase. L'émission On en jase qui tire à sa fin parce qu'il est déjà 13h40. Pascal CV, il va falloir ajouter des heures à cette émission-là.
Ça passe qu'on a du fun. Très vite. La seule chose, c'est que je pense que la gang du week-end a hâte d'entrer en onde aussi.
Ben, c'est ça.
Fait que même si on le demande, Dan, là, avec son garage à 18h ce soir, il va bien vouloir le faire.
Mon émission musicale préférée.
Bon, tiens, c'est dit.
Je commence le vendredi, puis en plus, c'est doux. À soir, il joue juste à 8 heures au foot. Fait que je peux vraiment t'écouter Dan dans le piton jusqu'à 8.
Ben là, tu vas rendre Audrey jalouse parce qu'elle est là samedi dimanche aussi à 7 heures avec le Rock and Chill.
Écoute-moi bien. Mon émission préférée du matin la fin de semaine.
Ah, oh, t'es tellement politicien.
Le Rock and Chill. Ben, hey, je serais pas pire, hein? Okay, le Rock and Chill avec un petit café.
Tu fais quoi avec le boulevard du Rock avec Dan et Colosse le dimanche à 10 heures?
Hey, c'est ça?
Ouais, c'est quoi ça?
Ça, c'est mon émission rock préférée de l'après-midi, les week-ends.
À partir de 10h, on n'est pas l'après-midi.
Ouah! Ouais, mais tu sais, j'ai l'habitude de me lever tôt, là. Ouais, là, j'ai peut-être fait un impair.
Mais pour toi, 10h, c'est l'après-midi avec ton horaire du matin et la semaine.
T'as tout compris. Donc, mon émission préférée.
Puis à 15h, le samedi puis le dimanche, avec le rack à mat.
Ça, là, c'est un... Même si on est un petit peu avant, mettons, le 4 à 7 du week-end, ça, c'est mon émission préférée pour un 4 à 7.
OK, ben, tu vas peut-être t'en sortir. Mais écoutez, là, on vient de vous vendre un peu ce qu'on a en fin de semaine. Là. Jeff, honnêtement, il faut le dire. C'est surtout parce qu'en fin de semaine, dans le boulevard du Rock, il y a des billets pour le show live de Big Wreck à gagner. Ouais. Ça, c'est en mars. C'est le 11 mars au Centre Vidéotron. Donc, boulevard du Rock, c'est dans ton émission d'après-midi, entre parenthèses, soit à 10h le samedi puis le dimanche. Puis le Rock and Chill aussi, l'émission d'Audrey. Donc, samedi, dimanche, 7h, là, on en fait gagner également. Donc, soyez là si ça vous tente de remporter tout ça.
Moi, live, je les connaissais pas beaucoup. Et quand ils sont passés au Festival d'été, c'était au début des années 2000, même fin des années 90, mon père avait gagné des billets en VIP.
OK.
Puis il m'avait dit, avec ma blonde de l'époque, « Hey, venons voir quand je t'ai donne. » OK, va lui, voir ça... Ça ne l'intéressait pas pantoute. Il avait gagné ça à job. Puis il disait, « Qu'est-ce que je vais aller faire, moi, un show de même? » Et j'avais trippé.
Ah ouais,
ben
hein?
Raide. Et après ça, j'ai revu Ed Kowalczuk, voilà, peut-être une dizaine d'années, à l'Imperial Bell, toute seule avec sa petite guitare acoustique. Donc, ça va vraiment être un spectacle.
Ça, ça devait être le fun.
Ah, c'était capoté, capoté, capoté. Donc, bien hâte de les voir au Centre Vidéotron. Je vais assurément aller faire un petit tour, c'est certain. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité avant ce début de week-end, Pascal CV? Et en attendant, justement, Émilie Pelletier qui va nous appeler en direct du lancement de campagne de Bruno Marchand.
Oui, mais parlons-en de la Ville de Québec, surtout des chantiers routiers. Il faut que je vous le dise, là, c'est important à savoir. Puis si on ne vous le dit pas, ben moi, je trouve qu'on ne ferait pas notre job. Donc, épisode de congestion à prévoir en fin de semaine. Ça commence demain, 7 heures. Pourquoi? Ben, le pont de Québec est complètement fermé. Ah, une voie de... Non, complètement fermé. C'est dans les deux directions, toute la journée de samedi. Dès 7 heures. Par contre, ça va rouvrir dimanche matin à 10 heures, mais c'est fermé de 7 heures demain jusqu'à 10 heures le dimanche matin. Vous allez peut-être pouvoir passer là, piéton cycliste si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a une navette aussi disponible pour les cyclomotoristes. C'est comme ça qu'on le dit. Du côté maintenant du boulevard Laurier, ben, ça va être fermé en fin de semaine. Ça va être fermé en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie. Pendant la fermeture, le trottoir aussi est fermé. Il va falloir emprunter un autre trottoir, celui de l'autre côté. Puis l'accès au commerce sur le boulevard Laurier, ça va se faire via le boulevard Hochelaga. Il y a d'autres fermetures qui sont prévues en fin de semaine, mais quand même, il faut rappeler la circulation sur le chemin Saint-Louis qui est très complexe la semaine, la fin de semaine. C'est beaucoup de construction qui vous empêche de circuler comme à l'habitude. Sinon, on va en parler bientôt avec Émilie, mais course à la mairie de Québec, Samamad a réitéré qu'il tranchait pour un seul mandat. Donc, ça veut dire que si vous faites en sorte que ce soit le prochain maire de Québec, ça va être pour un an. Pour un seul mandat, pardon.
Pour un seul mandat, 4 ans, évidemment.
4 ans, ouais, un an, tu peux pas faire grand-chose. Tu rentres, tu sors, mais il a lancé sa campagne aujourd'hui avec une équipe incomplète et Émilie vient de se brancher, donc on va y parler dans quelques instants. Le temps de vous dire qu'il y a un restaurateur bien connu de Saint-Roch qui s'est lancé aux côtés de Samamad. C'est un gars qui avait été énormément vocal dans la période de la pandémie, mais aussi lorsqu'on se demandait s'il allait avoir un complexe d'injection supervisée à côté de son commerce.
Et il va à l'encontre, justement, de ce centre d'injection supervisée.
Je me suis demandé s'il se présentait en politique juste pour ça.
Je pense que oui.
Parce que c'est comme ça qu'il va peut-être réussir à atteindre son but, mais c'est celui du walk and roll qui est en Basseville.
On va rejoindre immédiatement Émilie Pelletier, excellente journaliste pour le quotidien Le Soleil. Elle est sur le beat de la politique municipale. Émilie, comment vas-tu?
On
a un problème avec Émilie.
Je vais continuer en nouvelle, ça ne te dérange pas. Parce qu'il y a aussi le fiasco SAQ Click qui fait énormément jaser, car le mal enfant qui a été surpris à mentir à la... Alain Galland. Donc, il s'est dit étourdi, déstabilisé. Honnêtement, tout son comportemental a changé quand on a démontré qu'il avait envoyé à son adresse personnelle des documents qui disaient sous serment n'avoir jamais vu. Alors, c'est difficile à démentir. Non seulement il les aurait vus, mais il les aurait envoyés à son adresse personnelle et il s'agissait d'une des deux soumissions déposées par les fournisseurs qui participaient à l'appel d'offres de la SAAQ dans un virage numérique qui sera finalement remporté en 2017 par l'Alliance des firmes LGS et SAP. C'est un document qui devait être pourtant être barré dans un bunker à Québec. Carl Malenfant avait dit qu'il était resté en attente de tout l'imposant processus d'appel d'offres de la Société d'État qui s'était déroulé en 2015 jusqu'à la fin 2016. Et ça avait mené à l'octroi d'un contrat de 438 millions de dollars à l'Alliance. L'eau est très chaude pour M. Malenfant.
Vraiment très chaude. Il a été étourdi par, justement, les preuves accablantes amenées contre lui à la commission Galland. Elle est là, elle est au bout du fil. Pascal, c'est Émilie Pelletier, excellente journaliste pour le quotidien Le Soleil qui suit la politique municipale. Émilie, comment vas-tu?
Bon après-midi, ça va bien, vous aussi?
Ça va super bien. Émilie, dis-moi donc, est-ce que Bruno Marchand lance sa campagne en conquérant? Ça va bien pour lui dans les sondages. Sam Hamad et Stéphane Nachan se chicanent. Le champ est libre pour lui à gauche de l'échiquier politique. J'imagine qu'il doit être heureux, le maire.
C'était pour le maire Bruno Marchand. Je viens tout juste de sortir de ce lancement de campagne, effectivement, en direct de Charlebourg, du district de Louis XIV. Donc, il était dans la périphérie cet après-midi pour lancer sa campagne entourée de ses 21 candidats. Il a parlé d'une période enivrante. Hier, pendant la soirée, une partie de la nuit, son équipe a installé les fameuses affiches électorales. Il a souligné l'engagement de tous les candidats dans son équipe. Et il a parlé de Charlebourg comme d'un exemple, un symbole de ce qu'on veut faire partout, c'est-à-dire on veut qu'il y en ait pour tous les districts. Il promet de travailler pour une ville, toute la ville en fait, pas seulement pour le centre-ville, pas seulement pour la périphérie. Il y avait un symbole justement en ce sens-là d'être à Charlebourg cet après-midi parce qu'on l'a vu plus tôt ce matin effectivement dans le sondage Somme le soleil, que les gens des banlieues à Québec ici tendent à être un peu moins satisfaits de leur maire, même en majorité, souvent à Charlebourg, à Beauport, dans la Haute-Saint-Charles, ils souhaitent carrément un changement d'administration au lendemain du 2 novembre. Alors, effectivement, mais selon Bruno Marchand, sur le terrain, ça va bien, mais il est d'accord qu'il faut rien prendre pour acquis.
En contrepartie, Sam Hamad a fait son lancement dans, je pense qu'il était tout près du quartier Saint-Roch, il a présenté finalement son candidat dans Saint-Roch. Est-ce que M. Hamad est encore un peu aigri parce qu'on sent que la pré-campagne lui a rentré dans le corps à peu près?
Oui, bien effectivement, il a reconnu, hein, plus tôt ce matin, il était devant l'hôtel de ville, il a dit que il n'avait pas le vent dans les voiles, il reconnaît que la pré-campagne a été difficile. Il promet quand même, il revient avec ses grands engagements, hein, de ramener de l'écoute à l'hôtel de ville. Il nous parle de rigueur dans les finances publiques, de redonner à Québec, oui, le leadership qu'elle mérite, notamment sur le plan économique, en termes de, pour ce qui est de son statut de capitale nationale. Il nous parle d'une mobilité efficace, sans coût incontrôlable. Hein. On sait qu'il fait référence au projet de tramway qu'il souhaite, dont il a réclamé une pause plus tôt cette semaine. On sent que ça a été plutôt difficile encore ce matin, effectivement, la présentation de son candidat dans le district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. C'était très attendu parce que M. Hamad s'est souvent montré critique hein, des politiques de gestion de l'itinérance et de la dégradation du quartier Saint-Roch en reprochant à l'administration Marchand de ne pas avoir fait assez. Ce matin, donc, il présentait le restaurateur bien connu, M. Napoléon Roux, qui est propriétaire du restaurant Walk and Roll dans Saint-Roch. Ce monsieur-là s'est souvent montré critique des politiques et de la gestion de l'itinérance. Il a été critique dans le dossier du déménagement de d'Aubrivière. Encore ce matin, dans le dossier du centre d'injection supervisé, hein, il dit que c'est en partie responsable de la problématique présente d'itinérance. Il a même parlé d'une culture de l'itinérance à Québec. C'est des propos qui ont été vivement critiqués par le maire Marchand. Donc, effectivement, peut-être que ça se passe pas nécessairement comme M. Hamad le désire jusqu'à présent.
Hey, ça, c'est tout que de la prospection. Honnêtement, quand j'ai vu que cet homme-là allait se présenter sous la bannière de M. Hamad, le propriétaire du Walk and Roll, je me suis dit, ça me ramène là, aux années 2018 peut-être, mais c'était un des citoyens commerçants qui était contre les centres de supervision d'injection supervisée et parce que c'était très près de son commerce. Émilie, je ne sais pas si tu couvrais à ce moment-là le municipal, chose certaine. Je me demande s'il ne se présente pas même pour ses propres enjeux. Tu sais, quelqu'un de vraiment défenseur de ce qu'il vit parce qu'il y a deux pieds dedans, puis là, qui s'est dit, ben je pense que la politique, ça va être la seule façon de faire bouger les choses parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'écoute. As-tu ça, ce sentiment-là?
Je pense que le sentiment qu'il a, c'est un sentiment qui est ressenti par d'autres commerçants. Moi, selon ce que j'entends lorsque je me promène, nos bureaux, justement, au soleil, sont dans Saint-Roch également. Donc, on le côtoie, ce phénomène-là. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont frileux à parler. On ne veut pas être taxé d'être intolérant. Et c'est à ça qu'a répondu le maire Marchand cet après-midi en disant, ben, j'ai pas de doute que c'est le reflet de ce que pensent certaines personnes, mais encore faut-il le présenter d'une manière qui est pas inhumaine. Hein? Le maire a même parlé de propos dangereux, inhumains, tenus par le candidat de Leadership Québec dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Alors, je pense vraiment que le quartier Saint-Roch, l'enjeu de l'itinérance va assurément retenir l'attention au cours des prochaines semaines.
Un commerçant qui le vit en politique, qui se présente, ça va peut-être ramener toutes les gens d'affaires du secteur à voter pour.
Exactement.
Ça va être à suivre, ça, là.
Oui, dans ce sens-là, ça peut être une bonne candidature pour sa maman, Émilie.
Bien, ce que le maire dit, c'est qu'il n'a pas de doute qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Par contre, selon ce que sa candidate, Eleni Lepage, disait au sujet de l'itinérance, c'est que ce n'est pas elle ce qu'elle entend sur le terrain. Elle entend des gens qui, oui, sont désolés de côtoyer quotidiennement la misère humaine. Elle habite elle-même le quartier Saint-Sauveur, si je ne m'abuse. Donc, elle est au fait de la problématique de l'itinérance, de la consommation, des enjeux de santé mentale. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle côtoie, lors de son porte-à-porte, beaucoup plus de gens, des citoyens qui sont tournés vers qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là, qu'est-ce que la Ville de Québec peut faire davantage. Est-ce que le fait que ce soit un commerçant, ça va parler à davantage de gens? Est-ce que son discours va rejoindre définitivement des électeurs? Écoutez, je pense que ça va se voir dans l'urne.
Exactement, ça va se voir dans l'urne. Émilie, je veux pas te laisser partir et en 20 secondes, je veux avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que Claude Villeneuve est allé trop loin hier envers sa mamade?
Ben, c'est sûr que ça a pris un tournant, je pense, auquel il ne s'attendait pas. Monsieur Hamad a été vraiment piqué au vif par ce qu'il a dit. Je pense que c'est quelque chose que Monsieur Villeneuve gardait dans sa poche et qu'il souhaitait sortir au bon moment. Monsieur Hamad a fait face à des accusations d'intimidation de la part notamment de la chroniqueuse Karine Gagnon du Journal de Québec. Alors, je pense que Monsieur Villeneuve a jugé bon de sortir cette information-là stratégique à un moment qui lui plaisait. Maintenant, il a très bien dit qu'il ne retirerait pas ses propos. Il a rementionné qu'il n'avait pas nécessairement d'intention. Il ne prêtait pas à M. Hamad des intentions malveillantes. Donc, il faudra voir l'issue de ça.
Absolument.
En tout cas, ici, cet après-midi, le maire Marchand n'a pas voulu revenir sur cette tempête-là.
Émilie Pelletier, merci beaucoup pour ta collaboration aujourd'hui. Et on se reparle durant la campagne électorale, c'est certain.
Merci beaucoup.
Salut.
Bonne campagne.
Merci. Bonne campagne électorale. C'était Émilie Pelletier, l'excellente journaliste pour le quotidien Le Soleil. Pascal CV, tu fais quoi en fin de semaine? Repos, là, parce que le Kilimanjaro approche?
J'ai coupé mes entraînements de moitié cette semaine. La semaine prochaine, je dois presque rien faire. Fait que je m'offre une petite montagne, je pense, pour terminer. Et surtout, mes bagages.
Ah, excellent. Il nous reste un petit 4 jours avant ton départ. Continue à rayonner de la sorte et continue pour ton beau défi. C'est vraiment, extraordinaire ce que tu vas faire pour la Fondation Cerveau. Ben, ça fait plaisir, je le pense vraiment. C'est tout pour notre émission On en jase. Le retour de Gravel suit avec Denis, Véro et Audrey. Par la suite, c'est notre programmation musicale du week-end. Bonne fin de semaine, tout le monde. On se parle la semaine prochaine.
Bye. On en jase jusqu'à